Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et puis sincèrement, Nassim, cette mentalité failure before success, ok, wow. Moi j'en suis revenu.
C'est simple comme l'autre roche, hein. C'est clair comme l'autre roche, hein.
Moi, en tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Salut à tous, c'est Génération After, RMC, 20h-22h, comme tous les soirs de la semaine, bien sûr. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Et toi aussi qui nous regarde sur After Foot TV, sur la chaîne YouTube de l'After. Également, ce soir, autour de la table, tiens, on va commencer par l'homme qui fait sa rentrée cette saison. Autour de la table, notre banquier, un peu uniquement, David Glusman, bonsoir.
Salut Nico, salut la team, quel plaisir.
Salut la team, alors c'est Génération After ici.
C'est un peu comme salut les loulous ou salut la team.
Non, salut la team, je trouve ça bien, moi. Non,
ouais, c'est bien. C'est un petit peu. Non, je sais pas,
faut demander ça. Tu penses que c'est un peu désuet?
On va demander au milieu.
Est-ce que c'est un peu ringard?
Non, non, la team, c'est bien.
La team, ça marche?
Ouais, ça marche.
Ouais, la team, ça passe.
2025?
En plus, avec le ton, etc., je trouve que c'est.
Une bonne rentrée. Une bonne première touche de balle,
quoi. Salut la team.
Ouais.
Pourquoi pas? Je croirais dans l'after, quoi. Bref. David Guzman est là ce soir. Elton Boccolo est là aussi. Bonsoir, Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Sobre, efficace. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Très bien. On est ensemble jusqu'à 22h.
C'est bon, c'est les deux là.
Mais tout me va.
D'accord, parce que si tu vas nous
c'était
reprendre.
C'est pour visiter David pour sa première de la saison.
Ça fait deux ans qu'il est là quand même et qu'il montre sa qualité.
Je suis très solide sur les appuis. Moi, je suis très fier de mon salut, ma team. Il n'y a pas de souci.
En plus, Tim, vu son amour pour le championnat anglais, ça colle quoi.
C'est un mot anglais, effectivement.
Team, équipe, squad,
roster.
Squad, exactement. Voilà. Bon, ça part bien, les amis. Ce soir, nous allons parler de l'équipe de France, bien sûr, veille de match, premier match de qualification pour le mondial, face à l'Ukraine en Pologne. Dans un instant, la compo probable que j'ai sous les yeux. On va la détailler et la débriefer également. Se poser la question suivante: quelle est la meilleure animation offensive pour l'équipe de France de manière générale, avec tous les éléments sur lesquels peut compter Didier Deschamps. On parlera aussi de Marcus Thuram. Tiens, on voulait en parler hier, on va le faire ce soir. Sa carrière en bleu est-elle un gâchis pour l'instant? Elton, toi tu veux parler d'Ibrahima Konaté. Ça tombe bien, Deschamps, on a parlé aussi. Et plutôt d'accord avec toi, il n'a pas vraiment lancé son aventure en équipe de France pour l'instant, alors qu'il est un taulier de Liverpool. On va se demander aussi si le calendrier resserré va favoriser la méthode Deschamps. Moins de 15 jours entre la fin de la saison club et la Coupe du Monde en 2026 sur le continent américain. On va s'interroger avec vous au 32-16, bien sûr. Et puis gros débat à 21h. Débat Pablo Longoria. Il a fêté ses 5 ans à l'OM il y a un mois et demi. 172 mouvements arrivée-départ depuis son arrivée, instabilité chronique, mais la stabilité est-elle possible à l'OM? Là aussi on va en parler, et puis on finira avec les infos du jour et notamment un petit débat RC Lens. Le mercato du RC Lens est-il sous-estimé? Voilà pour le menu de Génération After jusqu'à 22h. L'After à 22h avec Gilbert. Salut Gilbert.
Salut les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais la cote d'amour de l'équipe de France est en baisse.
Aïe.
Eh oui. Eh oui, ben, plein de raisons qu'on expliquera tout à l'heure à 22h avec Jean-Louis Tour qui est actuellement en Pologne auprès des Bleus.
Pas c'est normal ça.
Donc que Jean-Louis Tour soit en Pologne ou que la Côte d'Amour?
Non, la Côte d'Amour.
C'est très surprenant.
Non, mais surtout qu'en plus les listes deviennent de plus en plus excitantes.
On est d'accord.
Bah, peut-être que ça va repartir avec les nouvelles listes. Mais
les
t'as perdu Giroud, t'as perdu Griezmann,
oui,
des gars populaires.
C'est intéressant.
Par exemple,
pour la France mainstream alors.
Peut-être.
Non, l'Euro 2024 est aussi passé par là.
L'Euro 2024, naze. Non, il y a pas mal de raisons. Deschamps en fin de règne.
Ouais, je sais pas, il y a une nouvelle génération qui est assez rafraîchissante.
Je pense que
on a écouté Jules Koundé hier, qu'on aime beaucoup.
Mais je pense que pour les spécialistes de foot, les vrais spécialistes de foot, quand on voit le renouveau en termes de profil footballistique,
l'équipe de France, ça parle essentiellement et principalement aux non-suiveurs, aux non-consommateurs de foot.
Oui, t'as raison. Peut-être qu'ils se reconnaissent moins dans cette scie.
Exactement.
Comme Pierre Ménès, peut-être. Effectivement.
Nico, pour ça.
Donc, on va en débattre avec Daniel Riolo. Tout à l'heure avec Kevin Diaz et avec Jimmy qui sera avec nous, Jimmy Brown. Par ailleurs, Didier Deschamps qui explique son management avec les jeunes.
D'accord.
Tu vois, il est pas dans
les téléphones,
il peut faire des causeries plus
difficiles.
Bah, bon, on va en parler. Je pense que Kevin Diaz, qui lui aussi est au contact des jeunes au quotidien,
bien sûr. Il y a Kevin ce soir à 22h, d'accord.
Ouais. Ouais.
Ça il est en Media Day aujourd'hui.
T'as promis, il est en Media Day. Tout comme Kylian Mbappé, le MJDM, qui s'est exprimé aujourd'hui.
Je ne sais pas si tu as entendu l'avis de Kevin hier, qui a demandé, qui t'a imposé.
Ma réponse est non.
Le fait d'arrêter de l'appeler comme ça.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme? La gouvernance. On va parler gouvernance du foot français ce soir parce que rien n'avance. Vous avez remarqué qu'il y a, au début du printemps, on nous annonçait la révolution, fin de la Ligue, la Fédé qui reprend la main. Et en fait, au final, un peu à bas bruit, comme on dit en politique, bah, finalement, l'inertie s'est réinstallée. Donc on fera un point.
Toutes les task force, la régulation financière, voilà. C'est vrai qu'on a rien vu sortir. Hein.
Exactement. Donc on va faire un point là-dessus tout à l'heure. Et puis l'Espagne joue ce soir, l'Allemagne joue ce soir, l'Algérie joue ce soir. Bref,
match très important pour l'Algérie.
Donc on fera un point sur tous ces matchs également dans l'after tout à l'heure.
Merci Gilbert, on va écouter attentivement l'after ce soir car Kevin monte à 22h. On va voir s'il est aussi professoral à 22h qu'il l'est à 20h.
Avec moi.
Voilà, avec tout le monde à 20h.
Non, mais oui, c'est vrai.
Beaucoup avec toi, c'est vrai.
Oui.
Bon. Ce sera donc à 20h. À tout à l'heure, Gilbert, pour l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs. C'est parti pour Génération After. Les Bleus à la veille de l'Ukraine. Donc, notre cellule équipe de France sur place nous envoie la composition probable ce soir de cette première étape de la campagne de qualification pour le Mondial 2026. Alors, Maignan dans le but, Koundé, Konaté ou Pamecano, Digne, Tchouaméni, Koné devant la défense, et puis quatre éléments offensifs, Doué, Olise, Barcola, Bappé. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire ce que vous en pensez, si elle vous plaît tout simplement également, si ce visage en 4-2-3 dont on va parler aussi vous intéresse, un nouveau Deschamps. Faut-il croire aussi en un Deschamps, un système new look, hein, ce 4-2-3-1 qu'on a vu contre la Croatie, 2-0, qu'on a vu contre l'Espagne, défaite 5-4. Il y a une question d'équilibre. On écoutera Kylian Mbappé qui a un avis là-dessus. Il est en conférence de presse tout à l'heure. Les gars, d'abord un mot sur la composition. Est-ce qu'elle vous ravit? Qu'est-ce que vous changeriez? Elton, tu ferais quoi?
Pour moi, elle est très expérimentale. À mesure, on a quand même les deux Parisiens alignés d'entrée entre Barcola, Désiré Doué, Olise dans un rôle axial. Et donc, moi, je vais davantage regarder la ligne de 3 parce que Kylian Mbappé, on connaît. Bon, même si Kylian Mbappé, il doit parfaire son nouveau rôle d'avancante. Mais toujours est-il que moi, ça m'intéresse encore plus sur un match face à l'Ukraine qui était quand même présente lors du dernier Euro, même si passé à côté. Donc moi j'ai envie de voir le secteur offensif, comment ils vont réagir, parce que là pour le coup il y a des opportunités. Dembélé n'est pas là, un Barcola il doit s'affirmer, parce que un Barcola il est là depuis quand même 2 ans en équipe de France et c'est le moment de montrer qu'il peut être compétitif dès la première minute de jeu. Désiré Doué il est un peu plus novice, même si encore une fois il a un statut qui a changé depuis cet été. Et Michael Olise, en fait c'est toujours la même problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michael Olise en équipe de France tu jettes la pièce en l'air. Ça veut dire qu'il est capable de te faire un gros match contre la Croatie au match retour, de la même manière que sur le match face à l'Espagne, et ben il est un peu plus en difficulté.
Après, il y a un échantillon encore faible pour avoir véritablement une impression globale aboutie du côté de Michael Olise.
Maintenant, ouais, c'était sa première année.
Maintenant, moi, je suis très excité de voir cette ligne de 4 encore une fois, parce que le dernier rassemblement, on avait eu un sentiment très contrasté entre cette défaite contre l'Espagne, cette défaite encourageante, même si j'aime pas ce terme, entre le retour de 5-1 à 5-4 et même les 30 premières minutes globalement où il y avait eu pas mal de situations pour l'équipe de France, et ce match contre l'Allemagne où au final tu gagnes, mais j'avais trouvé la première mi-temps très 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 compliquée dans le jeu. Donc j'ai envie de revoir cette équipe de France de 4 offensifs, même le double pivot, parce que pour moi Tchouaméni et Manu Koné ne sont pas du tout les mêmes joueurs, ne les enfermons pas dans les mêmes capacités. Moi j'aime beaucoup Manu Koné et je trouve ce qu'il fait en équipe de France est souvent très intéressant avec le ballon et avec sa personnalité. Je l'ai déjà dit pour le PSG, mais Barcola, j'attends beaucoup de Barcola cette saison. J'ai l'impression que ça va être son année.
Alors pourquoi?
Je sais pas,
c'est quoi, c'est une intuition?
Depuis ce matin
je l'ai dit dans les émissions, j'ai le sentiment que Barcola, s'il règle ses petits soucis notamment dans la finition et dans la nonchalance, il peut marcher en équipe de France et au Paris Saint-Germain et s'imposer à gauche, parce que entre lui et Kvaratskhelia il va avoir une vraie concurrence, et je pense qu'il a les moyens, de par son profil qui diffère par rapport au reste de l'équipe du PSG, de s'imposer. Et de la même chose pour l'équipe de France, vu la situation de Kylian Mbappé, je vois pas qui à gauche pourrait incarner ce poste-là. Il y a d'autres solutions, mais je pense que Barcola peut avoir un boulevard si véritablement il s'en donne les moyens. À lui de jouer, mais moi j'ai envie de l'accompagner et de le pousser cette saison, parce qu'il peut arriver à maturité dans son football. Désiré Doué, qui lui aussi en équipe de France, il avait fait une belle entrée contre la Croatie, mais son dernier rassemblement, après il y avait des circonstances atténuantes par rapport à son après-finale de Ligue des Champions.
Ouais, 2 jours plus tôt, ils étaient sur les Champs Élysées.
C'est pas là où on va le juger, mais Désiré Doué, on va encore avoir un peu plus de biscuits. Et puis Mbappé, on en a parlé hier avec Kevin et avec Elton sur son positionnement, comment il va jouer au poste de numéro 9, est-ce qu'il va être libre
libre. Est-ce que Deschamps va lui donner un cadre?
Est-ce que tu penses dans ce système-là, il doit jouir d'une grande liberté, parce que pour le coup, il va être entouré encore une fois là.
Moi,
tu vas avoir Doué à gauche. Tu vas avoir
Marco à droite,
Olise en 10 et Mbappé qui sera vraiment dans un rôle de 9.
Maintenant, moi je pense que, et je terminerai là-dessus, sur ce fameux 4-2-3-1, je préférerais voir Olise à droite, Barcola à gauche, Mbappé en numéro 9, et par contre avoir un Désiré Doué à côté de Manu Koné sur un milieu à 3. Et avec un Doué qui peut aller cette ligne de 4 et cette ligne de 2. C'est-à-dire vraiment faire cet escalier-là. Et je sais pas, enfin, on n'en prend pas la direction, mais je dis juste que, là, tu vas être face à une équipe de l'Ukraine, normalement, qui est à ta portée. Mais quand il y aura des très, très gros matchs, j'ai des doutes là-dessus.
Bon. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit si expérimental que ça, en fait, puisqu'Olysée, de toute façon, son poste préférentiel, c'est justement dans ce demi-espace, en fait, côté droit. Et Désiré Doué, il a été utilisé plusieurs fois dans le cœur du jeu, en fait, par Luis Enrique. Moi, dans l'animation offensive, je voudrais vraiment insister sur le rôle des latéraux. Parce que là, il y a quelque part un choix fort. C'est-à-dire que t'as Jules Koundé qui peut former une défense à 3 un peu asymétrique et Luc Hadding de l'autre côté. Et sur les deux choix aussi, il est allé sur les choix quelque part les plus défensifs. Donc peut-être avec plus de liberté justement pour ce quatuor offensif. Il compense le fait d'aligner 4 offensifs pur par le fait d'aligner Koundé qui est un central de formation et de l'autre côté Luc Hadding qui a plus de capacité offensive que Théo Hernandez. Donc moi, ce choix des latéraux dit
il a plus de qualité offensive que Théo Hernandez, Luc Hadding?
Non,
plus de qualité offensive que défensive, je veux dire.
Il a plus de qualité. Enfin, il a un profil défensif plus sûr que Théo Hernandez.
D'accord, c'est ça que j'ai compris. L'inverse.
Donc en fait, ça nous dit beaucoup de la liberté dont vont jouir les 4 joueurs offensifs. Ce choix et ce choix des latéraux dit beaucoup parce que t'as un Malo Gusto qui a un profil bien plus offensif et aussi un
qui a fait des belles perfs en équipe de France. Hein.
Exactement.
Bah qui a fait des belles perfs contre l'Espagne.
Qui a fait des belles perfs en équipe de France. Donc là, je pense que le choix des latéraux, vous avez parlé du choix des offensifs, nous dit beaucoup des responsabilités.
Maintenant, quand je vois la compo, moi, la première impression que j'ai, la première réflexion. Que j'ai envie d'avoir, c'est comment en fait Didier Deschamps va nous servir un plat très très moyen avec autant de possibilités.
En tout cas, là, a priori, ce sera pas le cas. Hein? La question, c'est qu'est-ce qui nous servira dans un gros match en Coupe du Monde.
En quoi ce sera pas le cas?
Non mais la compo là, c'est pas un plat moyen là.
Non, c'est-à-dire que avec
sur les choix,
sur le contenu, c'est-à-dire
que sur les consignes qu'il va leur donner.
La compo est excitante, les 4 de devant sont excitants. Maintenant, tu sais très bien que tu vas arriver à la 30e minute devant ton écran de télé, tu vas te dire bon, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce qu'on est satisfait. Moi, j'ai cette impression là, à lui de me faire mentir bien évidemment, mais c'est souvent le cas.
Walid, j'ai aussi envie de responsabiliser les joueurs parce que il y a la volonté de Didier Deschamps, c'est d'avoir une équipe qui aujourd'hui ton secteur fort, c'est l'attaque. Donc on est sur une équipe de France qui a vocation de se déséquilibrer. À un moment donné, il va falloir que les joueurs ils se responsabilisent.
Mais ça pourra pas marcher en autogestion.
Je te dis pas
ça pourra pas marcher avec des joueurs comme Barcola.
Je te dis pas en autogestion, mais par rapport à ce qui s'est passé contre l'Espagne, souviens-toi de ce qu'on disait. On expliquait qu'après l'Espagne, Deschamps allait s'appuyer sur ça pour revenir à une formule sécuritaire. Force est de constater qu'il ne l'a pas fait. Donc il y a de la conviction dans ce qu'il veut faire. Et moi, par rapport à ça, j'ai envie de voir les joueurs qui, à un moment donné, ils le lui auront sur le terrain.
Mais les joueurs vont avoir les intentions. Parce que si tu veux parler du match contre l'Espagne, moi j'avais le sentiment, Espagne-France, du côté français, c'est assez ça l'Espagne de Lamine Yamal, etc. On va leur montrer, nous, c'est ça le football français. Mm-hmm. C'est ça, tu vois là, un peu dans une guerre d'ego individuel.
Nous aussi on a un vivier, la passe d'armes
Yamal Dembélé.
Exactement. Nous aussi on a un vivier, nous aussi Désiré Doué, nous aussi Kylian Mbappé. On va vous montrer. Donc il y avait beaucoup d'intentions positives sur ce match-là. Maintenant, quand tu vas sortir de ce match-là et que tu vas tomber face à des équipes qui vont t'attendre en bloc bas, si pour moi Didier Deschamps ne met pas quelque chose en place avec un vrai cadre, avec des vrais rôles, je pense qu'on va être déçus. En tout cas, j'en ai bien peur parce qu'on a encore des jeunes joueurs qui, on l'a dit avec Olise, première année en équipe de France, Barcola, il était là à l'Euro, mais il n'est pas encore affirmé. Que dire de Désiré Doué, de Ryan Cherki, même s'il n'est pas là, et de surtout Kylian Mbappé qui sera dans un rôle central et qui, pour moi, en équipe de France, se démultiplie
à l'excès
et pas à raison.
Donc, quand tu dis un cadre, c'est un rôle établi, précis pour chaque élément.
Une animation offensive définie. Voilà. Avec un travail, avec un boulot.
Il dit qu'il n'a pas le temps.
Ouais, bah, ça se comprend.
Il a dit je n'ai pas le temps de le faire.
Mais ça attends, se comprend. Mais il peut quand même déterminer des zones. Il peut quand même essayer de travailler deux, trois aspects, deux, trois schémas quand même, non?
Vous écoutez Génération After avec Walid, David et
l'émission qui compte.
20h16. Écoutons Kylian Mbappé, justement interrogé sur ce 4-2-3-1 présumé déséquilibrant pour l'équipe de France.
Je pense que ça apporte beaucoup de choses à l'équipe. Je pense que ça peut apporter une certaine mobilité, offensive, parce qu'en fonction des profils et quand on voit les profils qui ont joué ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements. On essaye de toujours garder une position, mais c'est pas toujours une position fixe, ce qui permet de nous créer pas mal de situations, de permet d'avoir une fluidité offensive. Après, ça a des risques en termes d'équilibre, ça a des risques au terme défensif, et c'est là où il faut trouver le juste milieu pour que ça nous permette d'appuyer sur nos forces sans que nos faiblesses deviennent des trop grosses faiblesses, parce que je pense qu'on a pris trop de buts et on a concédé trop d'occasions lors du dernier rassemblement.
Bon, il parle évidemment de déséquilibre, le risque que ça implique un tel système. Est-ce que vous pensez que sa structure, cette équipe de France, avec ses qualités défensives, les qualités de repli de certains éléments offensifs, c'est vraiment risqué d'aligner un tel système?
Non, mais là-dessus, moi, je suis d'accord avec ce
t'en
que tu dis.
T'en prends 5 contre l'Espagne. Dès que la montagne s'élève, t'en prends 5 contre l'Espagne.
Oui, mais si d'accord, mais ça, c'est
Yemi imprécis, tu dois en prendre 4 contre l'Allemagne.
La première mi-temps contre l'Allemagne, elle est honteuse. Donc voilà, les gars, est-ce que là.
Après, attention, c'est quelque chose qui est pour moi à parfaire, parce que à un moment donné, il y a un péage à passer pour justement devenir une équipe beaucoup plus dangereuse.
C'est quand le péage, c'est où?
Bah, le péage, aujourd'hui, t'as un terrain d'essai qui est parfait. Pour moi, c'est des qualifications où t'as des équipes qui sont à ta portée. Et là-dessus, tu vas pouvoir, entre guillemets, bah, tenter des choses, peut-être avoir un droit à l'erreur que tu ne pourras pas te permettre sur la phase finale. Et donc, du côté de l'équipe de France, c'est à nous aussi de se dire qu'à un moment donné, on peut pas seulement regarder le verre à moitié vide, mais on peut aussi regarder le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est quoi? C'est une équipe de France qui est capable de mettre des buts de manière diverse. C'est-à-dire avec un Kylian Mbappé, avec un Désiré Doué, avec un Michael Olise, etc., etc.
Non, mais on n'a même pas
parlé de Dembélé.
On a envie de l'accompagner, cette équipe de France, cette nouvelle équipe de France. Mais le problème, c'est qu'on est quand même vacciné avec Didier Deschamps et on sait très bien que sur la dernière année, l'équipe la plus compétitive sur la dernière année de l'équipe de France, c'est celle qui a joué à San Siro. En Italie
pour en 4-3-3.
Non mais pour arracher sa qualification contre la Croatie en quart de finale. Et c'est avec qui? C'est avec des soldats.
Enfin, la première place, ils étaient déjà qualifiés.
Oui, enfin la première place, pardon. C'est avec des soldats, c'est avec des joueurs dont on n'attendait pas, avec Nkunku en 10, Marcus Thuram, Kolo Muani, des mecs qui vont à la baston, qui vont boxer. Donc aujourd'hui, quand tu vois le déséquilibre, moi je l'accompagne. J'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir ces quatre offensifs. Je n'ai pas envie d'être déçu contre l'Ukraine. Mais tu sais très bien qu'à la Coupe du Monde, est-ce que tu peux aller avec cette équipe-là?
Voilà, c'est ça.
Et surtout avec ce
cuistot. Cette équipe, c'est un vœu de supporter.
Surtout avec ce cuistot.
Attention, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ton vivier, tes forces en présence t'incitent à ça. Aujourd'hui, tu peux capitaliser donc sur un joueur qui te met 40 buts du côté du Real Madrid, sur un joueur qui a été MVP en finale de Coupe du Monde, sur un autre joueur qui probablement sera Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, du côté, même à travers l'opinion publique, tu vas devoir capitaliser là-dessus et harmoniser tout ça. Donc, quand tu regardes ces forces en présence, tu peux pas te dire, entre guillemets, je vais davantage regarder vers l'arrière et baser mon équipe sur la solidité des
Champs. L'opinion publique, il s'en fout des Champs.
Enfin, l'opinion publique.
Il a 9 mois de l'acquis, l'opinion publique, enfin, l'image. L'opinion publique, c'est pas un sujet.
Et même à travers ton groupe, parce que
aujourd'hui,
il y a des joueurs, Nico, par rapport à leur
stature. Tu vas frustrer des grands talents français.
Par rapport à leur stature en club, il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent revendiquer des choses en disant je suis capable de le faire en équipe de France.
Il a raison sur le deuxième point. Pour moi, il a raison sur l'opinion publique, je suis d'accord avec toi Nico, mais sur le deuxième point, sur la prochaine Coupe du Monde, s'il n'arrive pas à faire briller notamment ses outils offensifs, il peut avoir des remous entre les matchs, notamment sur ses choix d'hommes et vu le matériel qu'il a. Mais ça restera, je suis désolé Elton, le gros doute de Didier Deschamps.
Il va le faire, mais est-ce qu'il va bien le faire,
c'est la question.
Mais Wally, t'as parlé d'un terme qui est pour moi très important. T'as parlé de soldats, entre guillemets, de joueurs discipliné. Aujourd'hui, la nature des séjours sur le secteur offensif en équipe de France, elle a changé. Ce n'est pas des soldats, c'est des joueurs qui, individuellement parlant, ont une qualité qui est extraordinaire.
Oui, mais il va falloir gagner les matchs.
Il va falloir gagner les matchs.
Les gars, ces quatre-là, on peut les citer. Pour l'instant, personne n'a vraiment lancé son histoire en équipe de France.
Bien sûr.
Doué l'a pas lancé. On va être patient, évidemment. Même si la Coupe du Monde arrive, elle est dans 10 mois désormais. Olise l'a pas lancé. D'où il a pas lancé. Barcola l'a pas vraiment lancé.
Mais plus. Moi, tu
parles Dembélé, le nouveau Dembélé, l'a pas lancé aussi. David.
Cherki
non plus.
Cherki l'avait pas lancé, qui est absent.
On n'a pas d'assurance, mais, à 10 mois de la Coupe.
Mais il n'y a pas d'assurance. C'est justement pour ça que moi, j'ai parlé de terrain d'essai avec les qualifications. À un moment donné, il va falloir que les gens se responsabilisent.
Pour moi, c'est pas un terrain d'essai. Tu dois être premier. C'est une poule de quatre. Tu dois être premier. Et si t'es pas premier, tu bascules dans un système de tournoi avec les équipes qui sont reversées de la Ligue des Nations. Donc, c'est pas comme si anciennement, quand t'avais une poule de 6, avec les premiers et les meilleurs deuxièmes. Là, t'as plus de terrain d'essai.
Enfin,
là,
terrain d'essai dans le sens, là, pour moi, c'est des équipes qui sont abordables. Pour
oui,
toi,
mais abordables, mais pour moi, t'as pas une marge de manœuvre telle face à l'Ukraine qui puisse te.
Mais la marge, c'est par rapport aux concurrents, enfin, par rapport aux adversaires. Tu vas pas jouer l'Espagne tous les week-ends.
Non, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'Elton dit qu'il faut utiliser justement cette phase de qualification pour le mondial.
Et tu travailles quoi, en fait, David?
Non, mais c'est la réalité du football de sélection, David.
Mais tu reviens, en fait, si tu veux, une formule qui te permet justement d'être compétitif en compétition.
Ah, mais ce que je veux te dire, c'est que sauf dinguerie, tu perdras pas ces matchs-là. Tu diras
tu peux en perdre. Bah, l'Ukraine, tu peux le perdre. Le premier match.
Je rappelle l'Ukraine. Le groupe, t'as Azerbaïdjan, Islande, Ukraine. Voilà.
Non,
excusez-moi. Il faut terminer premier pour Islande. Ce que j'ai dit, oui. Azerbaïdjan, Islande, Ukraine.
Excusez-moi, les gars, quand même. Si tu perds les matchs.
Bah, on va voir.
Non, mais c'est pas interdit, en fait.
Ah oui, c'est pas interdit.
C'est que l'Ukraine fasse une grande campagne de qualif, par exemple, et que toi, tu lâches des points demain soir en Pologne face à l'Ukraine. Et que voilà, il va falloir l'Ukraine est supérieure à l'Azerbaïdjan, l'Ukraine est supérieure à l'Islande.
Oui, mais l'équipe de France, l'équipe de France doit bomber le torse quand même face à ces équipes-là, rassurez-moi.
Oui, sinon
t'as rien à faire en Coupe du Monde.
Et je te dis pas l'inverse, mais quand même.
Là, on les prend en fait comme des équipes, comme des, enfin, t'es des barreaux de décès, comme des sparring partners.
Faire un nul à Reykjavik, hein.
C'est pas des sparring partners, en fait.
Oui, non, mais ça, bien évidemment, on s'en est d'accord. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Nico, sur les 4 joueurs que t'as cités, moi, pour moi, là.
Il n'y en a aucun qui m'a enflammé pour l'instant l'équipe de France.
Pour moi, là, les vrais 4. C'est Kylian Mbappé, Olise, Ousmane Dembélé, et il m'en manque un.
Doué.
Et Bradley Barcola.
Bon. Ah bah tu vois, même là on n'est pas d'accord.
Bon, Marcus Thuram, tu l'as sorti ça y est.
Bah Marcus Thuram, on en parlera après. Mais pour moi, les vrais 4 qui peuvent prétendre aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que Barcola était là à l'Euro, mais ces 4-là, aujourd'hui, il va falloir les faire jouer, les faire jouer. Oui, et surtout que Dembélé, au trophée UNFP, il a dit qu'il voulait avoir un rôle axial. Que Didier Deschamps a expliqué que Kylian Mbappé était devenu et essentiellement un joueur axial. Que Olise est capable de jouer numéro 10 au Bayern Munich. En équipe de France avec les Jeux Olympiques notamment ou à droite, donc ça va être surtout ça l'inconnu, hein. Il va falloir que ces 4 là soient véritablement fiables en équipe de France.
Ouais, mais pour autant,
attends deux secondes, je vais accueillir Luc Elton qui est patient depuis de longues minutes. Salut Luc.
Bonsoir tout le monde.
Salut, bienvenue dans Génération After RMC. On est heureux de t'accueillir avec Walid, David et Elton. Bon, ton regard déjà sur l'animation offensive, celle-ci, ce 4-2-3-1, le déséquilibre voulu visiblement par Deschamps, combien de temps ça va tenir, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que t'en penses toi avec cet amoncellement de talents offensifs?
Bon, bah, je pense que comme tu l'as présenté... Et comme vous en avez un peu parlé durant l'émission, on est sur un Didier Deschamps qui on va dire, est plus spectateur, en tout cas qui subit les joueurs qu'il a plus qu'il ne choisit ou impose réellement des choix. Hein. On saurait depuis un moment que Deschamps est un réel tacticien de pensée, de métier, de théorie. Hein. C'est quelqu'un qui, comme il nous le surine tout le temps, veut avant tout qu'un groupe vive bien. C'est pour ça que Corentin Tolisso n'est pas là, alors que pour remplacer Ryan Cherki, on met Zaïre Emery. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat.
Luc, tu étais lyonnais ou pas?
Ah, évidemment.
Ah oui, voilà. Okay. Moi, je te suis sur Tolisso, mais je précise aussi que tu es lyonnais quand même. Ouais.
Voilà, non, mais il faut le préciser. Hein. C'est,
Après, il n'y a pas que les lyonnais qui le pensent, hein, Nico.
C'est ce que je viens de dire. Non, je suis d'accord avec lui.
Il n'y a pas que les lyonnais qui le pensent, oui, donc on est tout à fait d'accord, parce que des fois, il y a des choses qui crèvent les yeux. Encore une fois, que penser de ce paquet offensif, si ce n'est qu'il est totalement interchangeable, tellement il y a peu de, comment dire, tellement il y a peu d'identité dans la manière de jouer de Didier Deschamps. C'est-à-dire que quasiment tous les joueurs sont interchangeables dans ce qu'on nous propose. Dembou, vous pouvez le mettre en pointe, à gauche, à droite. Mbappé, bon, il s'est imposé dans l'as comme numéro 9, alors qu'en réalité, c'est pas un numéro 9, alors qu'on a des Mateta, des Hugo Ekitike, même un Marcus Thuram qui serait plus légitime dans le rôle, un Barcola, je ne dirais rien sur Barcola par pur clubisme. Franchement, elle ne me dit rien. Et elle va, en fait, elle va faire tout seule ce qu'on attendait. C'est Didier Deschamps est totalement spectateur dans son propre, avec sa propre équipe.
Ouais, c'est des messages qui reviennent également sur le chat de la chaîne YouTube. T'as Geeks qui nous dit, Dédé joue au dé, simplement.
Après, attention, moi, je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec Luc, parce qu'en fait, il faut pas sous-estimer un truc. Il y a trois réalités qui sont arrivées en équipe de France. Pour moi, la première réalité, c'est la mise en retrait progressive d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann. C'était des joueurs qui étaient des joueurs structure de Didier Deschamps. La deuxième La deuxième réalité, c'est le repositionnement axial de Kylian Mbappé. Et la troisième réalité, c'est l'explosion de talent offensif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les cartes, tu dois trouver une association, tu dois trouver une alchimie. Et donc, pour moi, il ne subit pas.
Ah, mais les deux premiers.
Mais non, les deux premiers, si, c'est une nouvelle réalité.
Olivier Giroud, depuis l'Euro 2021, il n'est plus dans les plans. Tu ramènes, t'es passé devant.
Il y a encore un an, à l'Euro 2024, c'était Kylian Mbappé à gauche. Et personne ne discutait ça.
Ah bon?
À gauche, avant l'Euro 2024.
Non, mais avant l'Euro 2024, Giroud part pas titulaire à l'Euro 2024.
Non, mais je te parle de Kylian Mbappé. Ouais. Avant, c'est encore aujourd'hui. Il y en a qui pensent que Kylian Mbappé, c'est à gauche et on ne discute pas.
Oui, les gens, Didier Deschamps travaillait déjà. Le match contre l'Allemagne, le France-Allemagne au Parc OL, c'est Marcus Thuram qui démarre titulaire. Giroud n'était plus dans le.
Mais parce qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, ça doit s'adapter à plusieurs réalités. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il subit la situation aujourd'hui. Il fait face notamment à de nouvelles réalités des joueurs qui sont arrivant en équipe de France, qui sont inexpérimentés, des joueurs qui doivent lancer leur campagne, enfin leur aventure en équipe de France comme Dembélé, et tout ça fait que
subir ou pas subir, la question c'est est-ce que tu penses que Didier Deschamps est content du vivier offensif?
Il est très content du vivier offensif.
Il est très content.
On en parle dans un instant. T'as un doute là-dessus toi visiblement. On en parle dans un instant. Luc, merci d'être venu sur RMC dans Génération After. Je rappelle également que vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre nouveau numéro WhatsApp, 0612 424 424 0612 424 424, pour envoyer vos messages. Tu vois, il y a Salas qui nous dit l'équipe de France n'a pas de plan de jeu contrairement à l'Espagne, quelque chose qui travaille depuis les petites catégories, une continuité dans leur formation et dans leur sélection, ce qui n'est pas le cas chez nous. Reste avec nous dans un instant. Tiens, on va parler de Marcus Thuram, c'est un sujet un peu épidermique, vous en parlez déjà sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Pour l'instant, effectivement, il n'a pas lancé sa carrière en équipe de France. Allez, la suite dans un instant. Walid David Elton sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Elton Moukoulou, David Guzman, Walid Acharchour, RMC Génération After jusqu'à 22h bien sûr. Alors, on parle de l'équipe de France demain soir face à l'Ukraine. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment ça, vous pouvez douter de l'équipe de France, ce groupe-là, Azerbaïdjan, Islande, Ukraine. Moi, je dis toujours attention quand même. Ça va très très vite.
S'il vous plaît.
Non, c'est pas écarté.
Donc en fait, l'équipe de France.
Pas du zèle dans la prudence.
Non, l'équipe de France ne va pas.
Attention,
pas ce que je te dis, mon
demain, l'équipe de France peut perdre. Mais
ne sois pas si confiant non plus, tu vois.
Oh, moi, je suis très confiant.
Non, mais on peut être confiant et ne pas considérer les adversaires comme un galop d'essai.
Ah c'est, non, c'est, pas c'est du
juste
tout.
On parle de deux choses différentes. Que l'équipe de France ponctuellement peut être accrochée, voire battue, ça c'est envisageable. Et que l'équipe de France aille à Coupe du Monde, c'est clairement envisageable.
Non, mais on va arrêter de raconter des conneries. C'est-à-dire que si tu ne fais pas 15 points sur ce groupe, c'est une anomalie.
Ah, tu sais, sort de l'équipe de France.
Tout à l'heure, t'as cité Marcus Thuram.
Il y a plus d'exigence en fait chez Nico Jamin.
Marcus Thuram. Si, il y a l'exigence en fait. Bien sûr qu'il y en a. Mais je dis, calme-toi, jeune Padawan. On va voir.
Ok, jeune Padawan.
On fera déjà un point demain soir.
Ok.
D'accord.
Skywalker.
Voilà. Marcus Thuram, bien sûr. On voulait en parler ce soir. On voulait en parler déjà hier soir. Je rappelle quand même ses stats en bleu, hein, Marcus Thuram. Hein, 30 sélections. 4 buts pour l'instant. C'est très en dessous de ce qu'il fait avec l'Inter, dans une configuration très différente, bien sûr. À deux devant avec Lautaro, ce qui semble lui aller beaucoup mieux qu'en équipe de France sur un côté, souvent. Avec l'Inter, c'est saison dernière, 50 matchs, 18 buts, 9 passes. Cette saison, pour l'instant, il part assez fort. Hein. 2 matchs, 2 buts, une passe décisive. Tu voulais dire hier que c'était un gâchis pour l'instant, Marcus Thuram en équipe de France.
Ouais, c'est un gâchis.
C'est lui qui gâche ou c'est Deschamps qui le gâche sur son utilisation?
Les deux ont une part de responsabilité parce que moi, avec Marcus Thuram, je suis passé quand même par plusieurs étapes. Au début, quand il arrive en équipe de France, bon, de manière caricaturale, je me dis que l'affinité que Didier Deschamps a avec son père, qui fait que il est intégré dans la vie de groupe, quand il est à moi, il était à Gladbach à ce moment-là.
Ouais, il était à Gladbach.
Je comprends pas pourquoi il est là, mais quand il est en équipe de France, sur son côté, il fait pas tâche. Je crois qu'il avait fait l'Euro 2021 où il termine contre la Suisse. Il termine contre la Suisse. Il y a un match aussi au Portugal.
Bah, c'est son meilleur match en équipe de France.
Exactement. Donc finalement,
c'est contre l'Autriche en poule à l'Euro où j'ai trouvé vraiment intéressant.
Portugal 1-0 à Lisbonne.
Ouais, il avait été très bien.
donc tu dis, tu sais pas pourquoi il est là, mais quand il est là, bah il fait le taf, il a le bon état d'esprit, mais j'étais pas subjugué par le joueur. Et depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan, par contre, il m'a totalement retourné. Ce Marcus Thuram en Ligue des Champions, en Serie A, dans ce tableau noir de Simone Inzaghi, là tu te dis que même avec Kivu, il fait un super début de saison. Tu te dis purée, ce profil là, quand même, on n'arrive pas à l'intégrer, alors qu'il pourrait totalement être compatible avec Kylian Mbappé dans une attaque à deux ou un Mbappé en attaquant d'aile, comme le disait Kevin hier soir justement. Et puis même lui, quand il joue en équipe de France, on est en fait la fameuse trajectoire que je viens d'évoquer précédemment. En fait, on est à l'inverse, quoi. C'est-à-dire depuis qu'on a Marcus Thuram qui a une vraie hype en club, et ben en équipe de France, il passe à côté. Je parlais du match contre l'Allemagne au Parc OL où il avait été transparent. L'autre match contre l'Allemagne avant la Coupe du Monde des clubs, après la finale, même s'il y avait la finale, comme pour Désiré Doué comme excuse, il avait joué un peu à gauche, il avait été vraiment pas bon. Et tu te dis bon, les statistiques, son apport, parce qu'il n'y a pas que les statistiques dans le football, mais même son apport.
C'est une sorte de maladresse aussi.
Et en fait, au fur et à mesure, quand on regarde ce qui se passe en attaque, parce que j'aimerais aussi me projeter moi dans le débat de Marcus Thuram, s'il n'arrive pas à trouver sa place sur le terrain, parce qu'attention, en dehors, il est très très apprécié.
Bien et, sûr, c'est un leader.
Avec Kylian Mbappé et le reste, on le voit dans toutes les vidéos qui circulent sur les médias de. Sur le média de la Fédération Française de Football, il met une bonhomie dans le groupe, mais quand on regarde ce qui peut se passer au poste de numéro 9, Kylian Mbappé, les prétentions d'Ousmane Dembélé, et Kitike qui peut prendre
Tu vas jusque là? T'es en train de me dire que sa place dans le groupe France est
en
danger?
Non, je me pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Marcus Thuram?
Elle devrait être en danger, bien sûr.
Celui qui est en danger pour moi, c'est Kolo Muani.
Oui.
Vraiment. Mais je dis juste que Marcus Thuram, déjà avoir la frustration de se dire qu'il sera jamais ce joueur de l'Inter en équipe de France, que j'ai l'impression que c'est acté pour tout le monde.
C'est une question de système.
On est plus naïf par rapport au système, etc. Bon,
je vais écouter David aussi là-dessus.
Mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'elle est en danger, c'est qu'elle devrait être en danger. Et c'est un miracle vu ses prestations en équipe de France que Marcus Thuram, qui je crois que sa première sélection il y a 5 ans ou il y a 4 ans, il a peut-être une ou deux prestations marquantes. C'est quand même un miracle qu'il ait autant de deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu en fait ce nombre de deuxième chance en équipe de France. Pour moi, tu parlais de Kolo Muani, sa place est en danger, peut-être par choix de club aussi, parce que à Tottenham,
Moi, je suis sûr que s'il met 15 buts en PL avec Tottenham, il y sera. Hein.
Mais Kolo Muani a été bien plus valeureux, bien plus utile et a des prestations bien plus marquantes en équipe de France que Marcus Thuram. Moi, Marcus Thuram, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut complètement et comme tu l'as dit, oublier le Marcus Thuram de l'Inter, qui joue dans un schéma qui le met énormément en valeur. Et en équipe de France, pour moi, il a eu trop de chance. C'est même pas question s'il devrait y être, c'est qu'il devrait ne plus y être.
Dans le groupe,
trop dur. Non, mais pour moi, il a eu trop de chance, Walid. Vraiment, un Mateta, 4 ans, qui est performant à Crystal Palace contre toutes les grosses tiendres en première ligue. Tu vas me dire que Marcus Thuram, avec toutes les chances qu'il a eues.
Mateta, il passe pas devant Thuram quand même.
Ah, mais pourquoi pas?
Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Philippe.
Ah, mais pourquoi pas? Mais avec un profil différent. En pointe, Mateta, avec ce qu'il a fait, notamment aux Jeux Olympiques, avec ce qu'il fait avec Crystal Palace, notamment dans les gros matchs. On l'a encore vu au Charity Shield contre Manchester City. Tu lui laisses même pas de chance.
Non, mais moi aujourd'hui, je pense que Marcus Thuram dans la tête de Deschamps, c'est même plus un numéro 9 en équipe de France, c'est un ailier gauche.
Et même ailier gauche aujourd'hui,
parce que si tu regardes bien les meilleurs matchs de Marcus Thuram, finalement c'est à la Belgique quand il gagne 2-0 là avec le but de Dembélé, il joue à gauche.
Et l'Autriche, il joue à gauche aussi.
Il est plutôt bon. Et le dernier match contre l'Allemagne, il le fait jouer à gauche avec Kolo Muani à droite et Mbappé en numéro 9.
En fait, le truc contradictoire, c'est qu'en équipe de France, il y a un poste qu'il n'utilise plus, depuis plusieurs années, entre Gladbach et Guingamp. Parce que, en fait, je suis totalement d'accord, parce que à l'Inter, c'est l'attaque en structure de cette équipe. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Là, il passe, en fait, de l'Inter où, en fait, c'est Brivante de Camp. Tout est organisé, tout est carré. Alors, en équipe de France, c'est une garçonnière. C'est-à-dire, les gars, vous êtes là, vous êtes sur le terrain. Vous êtes des individualités. Vous pouvez vous exprimer, alors que lui, ce n'est plus sa réalité. Donc aujourd'hui, on a un joueur, son standard, c'est quoi? C'est Coupe du Monde 2022, capacité à impacter face au Maroc, face à l'Argentine.
Mais ça, Deschamps, il aime bien.
Mais en fait, moi, j'ai bien peur qu'il soit victime autant du renouveau que du renouvellement du secteur offensif de l'équipe de France. Parce qu'à un moment donné, s'il y a les joueurs de côté qui s'affirment, comme Barcola, la cause, elle l'a entendue.
Non, mais là, David va plus loin, lui, il le sort même du groupe. Je vais poser la question à Paul, tout de suite, c'est au 32-16. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, David. Paul, bonsoir.
Toi, pour toi,
bonsoir à tous.
Salut.
Bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marcus Thuram? Je te pose la question tout de suite. Hein. Est-ce qu'il a encore sa place dans le groupe France aujourd'hui? On met de côté, l'homme apprécié, ambianceur également, et Deschamps est très sensible à ça. On le sait, il aime avoir un groupe qui vit bien sur une compétition d'un mois. Vas-y, Paul.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je vais même aller plus sur deux points. C'est-à-dire que effectivement, Deschamps, moi je me souviens, puisque comme je suis porteur de Monaco, c'est vrai que même l'épopée de 2004, il comptait sur l'ambiance. D'ailleurs, il avait dit à Julie, vas-y, si dis-leur d'aller à la mer, si tout le monde te suit, on va aller en finale. Et effectivement, même ceux qui avaient peur de l'eau, donc des joueurs comme Adebayor l'avaient suivi. Aujourd'hui, Thuram, Marcus Thuram, il y a deux choses dissociées. Il y a d'un côté le fils d'eux, c'est-à-dire toutes les attentes qu'on attend comme étant le fils de Lilian Thuram, avec, sachant que son père, quand même, c'est l'ancien recordman de l'équipe de France, champion du monde, finaliste de Coupe du Monde en 2006, champion d'Europe, un palmarès conséquent, que ce soit à Monaco, le Barça, la Juve, il a quand même une belle carrière derrière lui, donc quand même, on a cette attente-là. Mais après, on peut le dissocier, parce que théoriquement, c'est un buteur. Qu'est-ce que ça donne? Sa carrière, c'est un beau parcours dans la mesure où il part de Sochaux, il passe par Guingamp, Mönchengladbach, l'Inter, il y a quand même un bon parcours construit. Le Borussia Mönchengladbach.
Oui, ça vaut,
je pense que Polo va.
Je parle de Mayence.
Vas-y, Paul.
Mais il a quand même un parcours intéressant, il a un bon buteur, c'est un bon finisseur. À l'Inter, c'est un tueur, tout est construit autour de lui. Mais en équipe de France, rien. Il y a rien. Pour moi aujourd'hui, il n'a plus sa chance parce que Deschamps a utilisé beaucoup de choses, il a testé, ça ne marche pas. La Belgique et l'Allemagne. Oui, deux matchs références. Il a eu beaucoup de chance. Et derrière, il n'y a pas le rendement. On peut comparer aussi avec Ben Yedder, qui était en Ligue 1, qui était un tueur, qui était quatrième meilleur buteur de l'histoire de Monaco. Mais en équipe de France,
on a compris qu'il y a un prisme monégasque un peu quoi. Là, on part 2004, Julie Adebayor. Oui. On arrive sur Wissam Ben Yedder.
Ce que je veux dire, c'est que Thuram, il a eu sa chance. Ça ne marche pas. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Le plus important, c'est que l'équipe de France aille le plus loin possible, voire gagner la Coupe du Monde 2026. Donc, si Thuram, il a beau être l'ambianceur de l'équipe, sympathique, mais à un moment donné, il n'est pas là pour être juste le leader de l'équipe.
Ce qui est frustrant, c'est que quand t'allumes un match de Serie A, le mec, c'est un super joueur.
C'est vraiment un autre contexte.
Mais dans ce système-là, il pourra pas. C'est un autre contexte, effectivement.
Et tu peux pas. Enfin, c'est très difficile de jouer à deux attaquants en fait avec l'armada offensive que t'as en équipe de France. Moi, je comprends ta frustration, mais Walid, t'as un autre joueur, alors, par peut-être Anthony Martial, dans l'histoire de l'équipe de France, qui a eu autant de chance que Marcus Thuram sans produire. Vraiment, à part Martial, j'en vois pas. Pour moi, c'est vraiment quand je vois le nombre de chances qu'ont eu Lacazette, le nombre de chances qu'ont eu Ben Yedder, quand je vois le nombre de chances qu'ont eu Maté, quand eu Thuram,
Ousmane Dembélé peut-être.
Oui, Ousmane Dembélé, il a atteint il a rejoint une telle galaxie en club que lui, il force les portes. Mais vraiment, pour moi, c'est le Anthony Martial en fait en équipe de France seulement de l'époque. C'est beaucoup beaucoup trop de chances.
De toute façon, avec les nouveaux jouets aujourd'hui à disposition de Deschamps, Colomboigny et Thuram, si les mecs ils sont à leur meilleur niveau par rapport à ce qu'ils forment, par rapport à ce qu'ils font en club, ça va être très compliqué.
Ouais, après, t'as parlé de Kitiki, on va voir s'il va jouer après l'arrivée d'Alexander Isak aussi. S'il va enchaîner les matchs,
le pauvre Kitiki, il fait un début de saison incroyable. Il se prend Isaac dans
la
gueule.
Une doublure à 90 millions d'euros. Première ligue. Paul, merci.
Merci Paul.
Supporter monégasque. Bonne saison à toi sur le Rocher, bien sûr. Et de Mönchengladbach aussi. Bonne soirée à toi, Paul. À très vite sur RMC. Tiens, Deschamps, il a dit un truc important sur Marcus Thuram et le frère aussi. Écoutez, Kefren.
Qu'ils soient deux frères, oui, ça, ils le sont depuis qu'ils sont nés. Comme les frères Hernandez aussi sont deux frères.
Merci Didier, tu vas nous manquer dans 9 mois. Bonne soirée sur RMC avec nous. David, Elton et Walid, elle continue bien sûr, Génération After, dans un instant. Tiens, on va parler notamment de ce calendrier. Deschamps regrette, déplore qu'il soit trop resserré entre la fin de la saison en club et la Coupe du Monde. Mais est-ce que ça peut pas faire ses affaires justement? On va en débattre ensemble. Restez avec nous et sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain,
Walid Acharchour, Elton Mokolo, David Guzman, merci d'être avec nous sur RMC en ce début de saison. On est là toute la saison, bien sûr, toute l'année, des gros événements, Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des Nations. On sera là, évidemment, pour la vivre 21 décembre, 17 janvier, avec un gros enjeu pour
beaucoup. Une année incroyable.
On va parler ce soir également, année incroyable. Et puis, bien sûr, en point d'orgue, la Coupe du Monde 2026, qu'on va suivre aussi, on espère, avec l'équipe de France, même si on va attendre la campagne de qualification, David.
Absolument.
Merci. Parlons de Konaté. Ibrahima Konaté, qui donc devrait débuter demain, puisque je vous rappelle l'absence notamment de William Saliba, oui. Blessé avec Arsenal dans ce début de saison. Konaté associé à Upamecano, c'est notre défense centrale de la Coupe du Monde 2022, titulaire quasi inamovible. Saliba s'est fait une place, lui, pour être titulaire.
Il y avait Varane quand même, non? Varane.
Mais non, c'est les
deux premiers matchs. Que je raconte.
Les deux premiers matchs, c'est Konaté
Upamecano.
Varane revient.
Après,
il se fait contre l'Argentine.
Tout à fait.
C'est ça. Et bon. Il joue aussi à demi-finale Konaté
parce qu'il y a
pour le coup,
suspension.
Tu m'interromps, mais
non, il est malade.
Le duo le plus aligné sur le mondial,
c'est Covid. Konaté
ou Upamecano.
D'accord.
Merci, Walid. Donc
pas contre l'Angleterre et contre l'Argentine, les deux gros matchs.
Ah mais
on va débattre après. Quelle est votre meilleure charnière, Konaté, Saliba, Saliba ou Upamecano ou d'autres éléments? D'abord, on va écouter Didier Deschamps qui nous parlait de Ibrahima Konaté tout à l'heure en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il en pense de son rendement en équipe de France?
À ce moment-là où je vous parle, j'ai déjà effectué deux changements de joueurs, que vous savez, par rapport à la blessure de Ryan Cherki et William Saliba, qui sont malheureusement nets dans le sens où ça ne sera pas possible pour ce rassemblement. Il y a d'autres joueurs dont fait partie Ibou, Ousmane, qui doivent être vérifiés par le doc à leur arrivée, donc ils viennent là et... Mais j'ai pas les infos là, donc j'espère pas être amené à faire d'autres changements.
Et ça inspire.
Le son a été récupéré au gymnase Lola Grange.
C'est ça, le polyvalent. Ouais, c'est ouais, ça.
Pablo Neruda.
Et Aimé Césaire de Bobigny.
Jules Ladoumec.
Ah, merci. Ouais, oui. Plus beau stade de Paris. Ouais, oui. Le 19e.
Jules Ladoumec. 19e. Voilà. Obligé.
Toi aussi?
Ah oui, je suis du 19e, ma base.
Tu m'as jamais dit ça.
Et hôpital Robert Debré.
Magnifique. Il est pas beau, hein, l'extérieur, mais.
Ouais, bah, pas beau. Mais...
Bon, visiblement, il a créé des génies, cet hôpital.
Ah ouais, d'accord.
Merci.
Je salue la roseraie d'Aubervilliers.
Avi Delton, j'attends beaucoup plus de Konaté en bleu cette saison.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations.
Écoute, Nico.
C'est dans un gymnase aussi, apparemment.
Ouais. Écoute, Nico, dimanche, je me suis posé. Il y avait bien évidemment le main event Arsenal-Liverpool. Et même si le match, il n'y a pas eu énormément de buts, et il y a même le grand public qui a dit que ce n'était pas forcément un match excitant, je me suis quand même attardé sur les performances défensives, et notamment celles du côté de Liverpool. Van Dijk, évidemment, a été extraordinaire. Mais à côté de ça, il y avait aussi Ibrahima Konaté qui a été vraiment très bon. Et moi, il en est ressorti une frustration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Konaté, qui est très performant du côté de Liverpool, j'ai envie de le voir également performant en équipe de France. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est là qu'il y a un problème avec Konaté, parce que en ce moment, c'est un joueur, ou plutôt sur la dernière année avec l'équipe de France, c'est un joueur qui a clairement du retard pour moi sur Saliba, sur Upamecano, qui ont sorti un très 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 gros euro en 2024. Et son année 2025 n'a pas été bonne. C'est bien simple. Il y a eu la défaite en Italie, il y a eu la défaite face à la Croatie au match aller quart de finale de Ligue des Nations, et il y a eu la demi-finale contre l'Espagne, où à chaque fois l'équipe de France a perdu et a pris beaucoup de buts, et Konaté n'a pas été forcément performant. Alors Ibrahima Konaté, il entre dans sa troisième année en équipe de France, une troisième année où il doit s'affirmer, parce que en fait il y a un côté contradictoire, à savoir que hors terrain, c'est un joueur qui a un cadre bien établi, on le voit notamment sur les vidéos. Il a même eu le brassard du côté de l'équipe de France. Mais plus ça va, et moins les performances de Konaté sont satisfaisantes. Alors oui, on peut expliquer plusieurs choses, à savoir que il y a une charnière qui est déjà installée. En équipe de France, on n'a pas forcément le temps de travailler. Il y a pas beaucoup d'automatisme. Il n'empêche que Konaté, sur les trois matchs que j'ai cités, il a été à chaque fois aligné sur le match 1, pas forcément le match 2 où il y a beaucoup de rotations où on pourrait expliquer des choses. Donc c'est pour ça que sur cette rentrée, sur cette saison 2025-2026, je veux que les performances elles augmentent, à commencer par ce premier match contre l'Ukraine. Oui, c'est un premier match de rassemblement. Oui, il y a eu très peu de temps parce qu'il y a eu les premiers matchs officiels en club, il y a eu le mercato, mais toujours est-il que c'est à partir de ces matchs-là qu'Ibrahima Konaté doit faire mieux, être un joueur qui doit être aussi bien important sur et en dehors du terrain.
Bon. Qui veut réagir, David?
Oui, il doit être meilleur en club aussi, parce que moi je l'ai trouvé très positif et très optimiste concernant son début de saison en club.
C'est vrai, tu fais bien d'en parler.
Parce que très franchement, sur l'égalisation de Semenyo contre Bournemouth, Semenyo lui fait danser la lambada sur 20 mètres. Ensuite, il est battu
sur un cha-cha-cha.
voilà, ou la Macarena, mais bon, il est battu en fait sur, la, sur le 2-2 aussi à Newcastle sur la déviation du but d'Ozula. Il fait un charity shield absolument catastrophique et une fin de saison dernière compliquée. Donc il y a peut-être aussi cette situation contractuelle qui est toujours pas réglée. Il va rentrer comme Trent, comme Mossala, comme Van Dijk l'année dernière dans sa dernière année de contrat à Liverpool. Non, il a pas mal de soucis à régler. C'est vrai que moi, je vais plus loin.
Il était mieux contre Arsenal.
Mais c'est un match sur quatre. Mais c'est un match sur quatre de cette saison. Donc, moi, je vois aussi une contagion de ses performances en équipe de France, de performances à Liverpool. Je trouve que sa fin de saison dernière, elle est pas non plus excellente. Et j'attends bien mieux d'un des tout meilleurs défenseurs européens sur au moins les deux premiers tiers de la saison l'année dernière.
Moi, je vais pas paraphraser ce qu'on dit les gars. Je suis totalement d'accord avec eux. Moi, j'en ai déjà parlé après la Croatie. Notamment où on se rappelle hein, mais c'est lui qui sort à la mi-temps hein.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si t'en as parlé dans tous tes matchs, mais
j'ai parlé de la Croatie mais j'ai pas évoqué
mais sur le 2-0 Saliba fait un mauvais match, mais Deschamps sort Konaté à la mi-temps. Upamecano revient sur le deuxième match, ça fait 3-0, en tout cas ça fait 2-0 avec les pénaltys, la séance de tir au but avec un grand Mike Maignan. Donc il y a quand même beaucoup d'images qui vont pas dans le sens de Konaté. On lui souhaite de véritablement lancer son histoire avec l'équipe de France, parce que pour moi, humainement, ce qui dégage dans ce groupe et même à chaque déclaration avec l'équipe de France, c'est extraordinaire. Je vais pas tous les citer, mais il met une fraîcheur, une sincérité, une justesse dans ses propos qui est assez dingue. Mais il a aussi, il faut le dire, montrer les muscles en conférence de presse, notamment sur le côté sportif. Je me rappelle moi de l'après Coupe du Monde où il y avait des questions sur le capitanat post Mbappé avec ses histoires en Suède, etc. Il avait dit que lui il sentait légitime d'être le capitaine de l'équipe de France. Il faut pas oublier que Saliba lui grille la priorité après un match contre le Canada, il me semble, en prépa, en prépa d'avant compétition à l'Euro, alors qu'à la base ça devait être Upamecano et Konaté, qu'il avait montré beaucoup de frustration pendant cet Euro-là. Et quand tu regardes depuis l'Euro, bah Elton vient de dénoncer tous les couacs de Konaté, ça commence à faire tâche. Alors on peut aussi lui souhaiter une espèce de trajectoire à la Upamecano, qui lui aussi, dans un premier temps en équipe de France, était en difficulté.
Ou à la Saliba.
Hein?
Ou à la Saliba.
Ou à la Saliba. C'est vrai qu'ils ont eu besoin de temps pour essayer de se mettre en place et de montrer l'étendue de leur talent. Parce que moi, quand Konaté arrive en équipe de France, j'y crois dur comme fer. Hein. Je monte au front en disant c'est celui qui va véritablement s'imposer en défense centrale. Force est de constater que je suis déçu. Qu'entre ce que j'attends et ce que je vois, il y a un vrai décalage. Maintenant, contre l'Ukraine, il y a encore avec la blessure de Saliba, il y a encore un test pour
Après attention, plutôt que de lancer son histoire, moi je dirais relancer, parce que les débuts de Konaté sont vraiment très bons.
Oui.
Moi je n'oublie pas que la Coupe du Monde 2022, pour moi, il est très très bon. La demi-finale contre le Maroc, il est très 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 performant. Et faut pas oublier que sur la campagne de l'Euro 2024, c'est lui qui est dans la charnière avec Upamecano. Ils ne prennent que 2 buts en qualification. Donc ça, c'est une stat qui plaît dans sa faveur.
À chaque fois que ça pue.
Mais maintenant arrive pour moi cette année 2024 qui est l'année bascule dans la carrière bleue de Konaté.
Bon, voilà sur Konaté. On vient dans un instant, les amis. Tiens, un mot sur les directs. Tiens, pour vous dire que la Belgique joue ce soir sur le terrain du Liechtenstein avec un Malik Fofana titulaire. On a déjà remis de sa blessure. Il démarre avec la Belgique. C'est une information importante pour les supporters lyonnais, que l'Espagne mène déjà 1-0 en Bulgarie grâce à un but de Yarzabal. Et la Turquie a battu la Géorgie 3-2 malgré des buts de David Ashvili et de Varas Redia, mon Dieu.
Souvent des gros matchs Géorgie-Turquie. Il y avait déjà eu celui de l'Euro qui était
merveilleux, celui-là.
Merveilleux
match. À Dortmund. C'est le beau match de l'Euro d'ailleurs. 0-0 entre la Slovaquie et l'Allemagne. Et c'est parti également pour la soirée qualification zone Afrique. On fera un point plus tard dans la soirée, justement. On reste avec nous, RMC Génération After, David Guzman, Elton Mokolo, Walid Acharchour. À tout de suite sur RMC.
RMC.
Moi, je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9.
Il a été élu, alors pas homme du match, hein, le
Most player.
Voilà, redis-le, comment tu dis ?
Most player, c'est ça ?
T'as un club qui marche un peu mieux quand même dans le sens du football que le football demande.
20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
David Guzman est là ce soir, Elton Mokolo aussi, Walid Acharchour bien sûr, on est ensemble jusqu'à 22h, RMC Génération After. Finissons sur l'équipe de France, je voulais qu'on le traite également ensemble, David tu me l'as proposé ce sujet aussi parce que ouais. On a tous eu l'interview du sélectionneur Didier Deschamps dans l'équipe, qui pour une fois c'est vrai. Donne quelques éléments,
ouais.
Laisse un peu parler son cœur presque.
Très disert, ouais.
Pas tant sur sa dernière année, mais en tout cas sur quelques contraintes qu'il rencontre depuis maintenant 13 ans qu'il est sélectionneur, et encore plus à l'approche de cette dernière Coupe du Monde qu'il va vivre. Bon, il dit, hein, il est un petit peu chouiné, c'est vrai, mais il dit des choses vraies qui sont quasi incontestables, notamment sur le temps qu'il n'a pas pour mettre sa patte sur l'équipe de France. En clair, il explique j'ai pas le temps de faire ce que j'aimerais faire en bleu. Ça, ça peut être un débat aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il aimerait faire ? On ne le saura jamais. Parce qu'on a vu ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait faire en club. On n'a pas forcément adoré ce qu'il a proposé en termes de spectacle, notamment, et d'esthétisme. Il va plus loin également cette année-là, particulière, bien sûr, puisque la finale de Ligue des Champions, il le rappelle, se jouera le 2 juin prochain. Il est possible qu'il ait quelques éléments de son équipe de France qui la joue, cette finale. Et la Coupe du Monde démarre le 11 juin. Début du mondial le 11 juin, ils doivent arriver au plus tard 5 jours avant la Coupe du Monde. Donc c'est très compliqué pour lui de mettre en place ce qu'il adore faire. C'est 15 jours, voire 3 semaines parfois, pour créer une ambiance de groupe, préparer une équipe commando, comme il aime le raconter parfois. Donc il se plaint un peu de ça, finalement. Mais toi David, tu penses notamment que peut-être que ça peut lui servir, bien au contraire, par rapport aux autres sélections et aux autres sélectionneurs qui, eux, cherchent à construire une vraie identité.
À être un peu plus protagoniste, oui. Enfin, en tout cas, au Deschamps historique, si on revient en mode tournoi, au Deschamps en mode tournoi, avec un joueur d'équilibre, que ce soit Rabiot, que ce soit Tolisso, que ce soit Matuidi, oui, clairement, ça peut lui servir. Il y a des équipes nationales, notamment les principaux concurrents, qui sont très ambitieux. Moi, dans les conditions d'organisation, c'est-à-dire avec des décalages avec des conditions météorologiques extrêmes, on l'a vu avec des matchs pendant le championnat du monde des clubs qui ont été reportés à cause d'orages. Oui, les équipes protagonistes, les équipes qui veulent presser, je pense à l'Allemagne de Nagelsmann, je pense à l'interview de bienvenue, de présentation de Thomas Tuchel avec les Anglais qui dit que lui, il n'a pas été pris pour être un micro-manager, mais il veut vraiment casser les codes du football de sélection et avoir un pressing agressif, avoir un football opportuniste.
Jean-Louis découvre le football de sélection.
Et, exactement.
Peut-être qu'il va déchanter.
Et moi, je me dis, les sélections qui peuvent au final le plus en sortir et bénéficier de ce manque de préparation, de ces conditions météorologiques qu'on peut penser extrêmes, de ce format avec énormément de voyages, énormément de contingences logistiques, avec du décalage horaire, c'est justement les équipes type ou traditionnel, en tout cas, de Didier Deschamps. Et après, il y a aussi l'Espagne qu'on met à part, qui, elle, de toute façon, peut geler une rencontre avec sa possession défensive et faire courir l'adversaire. Mais oui, après, j'ouvre le débat, mais le Didier Deschamps classique, le Didier Deschamps old school, il a vraiment possibilité de tirer son épingle du jeu de par le format de cette compétition et le manque de préparation.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, justement ?
Après, pour moi, il y a une part beaucoup plus aléatoire aujourd'hui par rapport à ce manque de préparation. Parce que moi je suis totalement d'accord avec Didier Deschamps, mais en même temps je reproche une chose, c'est qu'il va pas au bout de ses idées. Moi je pense qu'il aurait pu être à la pointe du combat, parce que moi Nico, moi je suis un enfant du football de sélection, il y a rien de plus grand et de plus beau.
Ça veut dire quoi ça? Tu crois qu'on est quoi nous?
Non mais parce que lui,
c'est Coupe du Monde, non?
Non mais je sais que non mais parce que je sais que lui c'est football de club.
Lui c'est qui?
Walid Acharchour.
Ah ouais, non, c'est lui avec le doigt pointé.
Non, c'est lui. Non, comme ça.
Mais plus les interlocuteurs en fait.
Exactement. Non, mais je parlais.
Il a pris une dimension Elton.
Ah oui, t'as vu ça.
Et non, mais parce
il a deux trois vestes à Zara à 47 euros.
Pas Zara.
Quel mépris stylistique.
Ça veut dire quoi ça?
Ah là, parce qu'il est griffé.
C'est pas Zara déjà.
C'est quoi Massimo Dutti? C'est quoi?
Non, c'est pas Massimo.
C'est quoi? C'est quoi?
Je sais pas du tout.
Ah d'accord.
Des créateurs de niche.
Ah d'accord. Ok.
Sur mesure.
Sur mesure.
C'est des collections.
Dans le troisième.
C'est deux, trois comptes Instagram que tu suis qui te.
Exactement.
D'accord, non, t'es pas comme ça.
Ah non, si.
T'es journaliste ou pas?
Comment ça?
T'as pas de carte de presse, on est d'accord?
J'ai pas de carte de presse.
Alors tu peux croquer. Vas-y, tu peux continuer.
Et non, mais pour revenir sur le football de sélection, Didier Deschamps, il va pas au bout de la chose, parce qu'il aurait pu être à pointe du combat et dénoncer ce qui est pour moi, on maltraite le football de sélection. Parce que là, en fait, on est sur un côté paradoxal où on rajoute des pays, des sélections pour la Coupe du Monde et en même temps, on leur accorde moins de temps.
Donc forcément, le football de sélection est impacté. Et au mois de juin, on explique quoi ? Fait ouais, c'est nul, ouais, les équipes ne sont pas prêtes et tout. Et Didier Deschamps, il le détaille bien. Mais à un moment donné, il aurait pu se dire, avec la légitimité qu'il a, il aurait pu être à pointe du combat. Et moi, c'est ce que je reproche.
Mais lui, il renvoie sur les joueurs. Là, lui, il a renvoyé clairement sur les joueurs. Il a dit, c'est aux joueurs de se mobiliser. C'est aux joueurs, ça, en fait, au syndicat des joueurs.
Ouais, mais en fait, il s'en lave les mains. C'est lui aussi, là. Il a
eu peur.
Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse hypocrisie. Et Deschamps nous a quand même, à chaque fois, à chaque compétition, il nous l'a pas expliqué, mais en tout cas, il nous l'a montré qu'en fait, c'était la compétition du jour J, que pendant la compétition, tu devais te révéler en tant qu'équipe, mais presque. On se rappelle des premiers matchs contre l'Australie, à la Coupe du Monde 2018. On va pas tous les faire.
Oui, il change son fusil d'épaule, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, quand on essayait d'avoir de l'exigence sur le travail préparatoire, sur les qualifications, sur les matchs amicaux, sur la Ligue des Nations, on nous disait, on nous rabâchait à chaque fois que Deschamps était une bête de compétition, que ça se passait dans les compétitions et qu'il fallait faire fi de tout ça. Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis Nico en disant c'est peut-être même une chance pour Didier Deschamps parce que il arrive. Parce que là, on parle de l'équipe de France, mais toutes les sélections vont être impactées par ce manque de préparation.
Même Ancelotti, pour moi, Ancelotti, c'est exactement son Brésil, et c'est une chance pour son Brésil.
Et donc, ils vont arriver à un moment donné en se disant, bah, on est dans la même galère, tous dans la même galère, et ça va être le meilleur, celui qui s'adapte le mieux. Ça va aussi appartenir aux joueurs. Cette compétition, la fraîcheur. On parle du football des sélections, mais aujourd'hui, le football de club est aussi détruit. Hein, quand on voit la Coupe du Monde,
pour moi, c'est pardon ma théorie. Je reprends mon souffle. Le football de club a vampirisé le football de sélection.
Ok, très bien, mais le football de club, on fait semaine après semaine en disant la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. La Ligue des Champions a 7 matchs pour la gagner.
On aime tous le nouveau format.
Le nouveau format, de la Ligue avec 8 matchs et donc 2 matchs supplémentaires.
Mais ça,
l'histoire des 16e de finale.
Du
barrage. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le football, quoi. C'est le football global.
T'as des mecs qui vont jouer la finale des Champions. Qui joueront en Coupe du Monde 8-9 jours après.
Et ça, on l'a accepté.
C'est incroyable, quand même.
Il faut
mesurer ça. On va pas aménager les calendriers pour ces joueurs-là, bien sûr. Ça, c'était pas un tirage au sort de calendrier.
Mais
t'as peut-être, imagine le PSG retourne en finale des champions. T'as tous les joueurs qui vont disputer un match.
Il y a aussi des clubs aujourd'hui.
Une grosse semaine avant de lancer leur Coupe du Monde.
Il y a aussi des clubs.
C'est fou.
Et des joueurs dans les clubs qui ont fait Coupe du Monde des clubs et qui viennent de faire une Super Coupe d'Europe et des matchs de championnat qui vont devoir faire
aujourd'hui 2 ans d'affilée.
Un match contre l'Ukraine et un match contre, j'ai pas le deuxième.
Contre
l'Islande. Donc tu peux faire aussi l'inverse.
C'est-à-dire?
Non.
Vas-y, explique.
Bah, je vais expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'avec la charge de travail des joueurs dans les clubs, où on leur a rajouté des compétitions comme la Coupe du Monde des clubs, avec combien de matchs? La Coupe du Monde des clubs, c'est 7 matchs en plus.
Mm-hmm.
D'accord? Bah, avec l'enchaînement des sélections, combien de fois on a fait les débats l'an dernier en disant, il y a 3 rassemblements en l'espace de 3 mois? Bah ça aussi ça impacte le niveau des clubs et le niveau des joueurs dans les clubs.
Un niveau sensible, beaucoup plus sensible pour moi. À côté de ça, dans le football de section,
l'année dernière on a eu une trêve en août, une trêve en septembre, une trêve en octobre, la trêve de mars qui arrive quoi une semaine avant des échéances très importantes en Ligue des Champions. On va pas m'expliquer que ces joueurs-là ne sont pas aussi impactés dans la réalité des clubs.
Mais je vais t'expliquer, là il y a une aberration. Ça veut dire que là on est déjà à 4 rassemblements de la Coupe du Monde et qu'avant traditionnellement on avait 2 ans pour faire les qualifications de Coupe du Monde et là on a 6 mois.
Il sert à rien quoi qu'il arrive.
D'habitude on est d'accord. Mais pour revenir en fait au sujet initial, moi je trouve que avec nos individualités, cette Coupe du Monde, ça va être une Coupe du Monde d'individualité. Je ne vois pas, à part l'Espagne qui est déjà très établie, je ne vois pas comment ça peut être en fait une Coupe du Monde de collectif dans ces conditions. Et quelle est la nation qui a bénéficié le plus d'individualité? Ça reste la France, ça reste l'Espagne, mais
l'Allemagne, jeu.
Mais même pas l'Allemagne, l'Angleterre, mais le président Ancelotti a vraiment, moi je pense, une carte.
Mais quand Hamilton dit que c'est un enfant du football de sélection et de ces compétitions-là, mais depuis la nuit des temps, c'est quoi? C'est que c'est un football de collectif, le football de sélection?
Non, mais
ça dépend comment.
Ah non, mais ça a toujours été. Quand on était enfant, quand on était adolescent, c'était les individualités qui te faisaient gagner, et qu'encore une fois,
sauf certains cas comme l'Espagne.
Non, c'est l'Espagne,
qui a permis un football de sélection.
L'Allemagne 2014 et l'Espagne sont des anomalies.
Mm-hmm. Sont des exceptions.
Bah oui, des exceptions.
On est d'accord, on est en train de dire et de justifier la raison pour laquelle Elton Deschamps propose pas quelque chose de plus alléchant en équipe de France.
Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie parce que Didier Deschamps nous a toujours rabâché qu'en gros, de toute façon, même avant, il y avait pas le temps. Même quand il y avait plus de temps, il y avait pas assez de temps.
On dirait Thierry Henry, j'adore.
Non, mais surtout,
non, mais c'est vrai,
non,
c'est vrai,
non, mais ce débat sur le temps,
surtout
que les gars, historiquement, la seule fois où Didier Deschamps a essayé d'être un peu plus fantaisiste, de faire l'effort de reprendre Benzema, d'aligner plus de joueurs offensifs, bah, ça s'est terminé en fiasco, en fait. Même si le contenu du match est bon, c'est des circonstances incroyables, mais ça s'est terminé en fiasco contre la Suisse. Donc, ça valide pas du tout son parti pris d'être avant tout pragmatique.
Non, et moi, bon, j'ai vu des compétitions de l'équipe de France où il y avait un mois à Tignes. Oui, il y avait une préparation, des préparations de dingue. C'est dans le bien. Jeu, on n'était pas super, les gars.
C'était un choix aussi. C'est un choix, Aimé Jacquet, Roger Le Maire. Non, mais je voulais un football pragmatique, efficace, point barre.
Très bien. Non, mais le
Deschamps en est l'enfant.
Non, mais Walid, il te parle pas de l'esthétique, il te parle de l'aspect compétitif. C'est de ça dont il est question.
L'aspect compétitif. Voilà les amis, pour l'équipe de France, rendez-vous demain soir sera sur RMC évidemment, alors que Liechtenstein vient d'égaliser face à la Belgique.
La Belgique
2-0, pardon, Rudy Garcia.
La Belgique vient de marquer.
Qui applaudit autant pour moi, 2-0 pour la Belgique sur le terrain du Liechtenstein. 1-0 pour la Tunisie, tiens, face au Liberia, la Tunisie qui va sûrement aller chercher assez rapidement sa qualif pour le mondial l'été prochain. Alors, vous écoutez RMC 21h13 avec Elton, Walid et David, Génération After. Parlons de l'Olympique de Marseille. À présent, on va se poser et étudier la stratégie Mercato de l'OM. Depuis 5 ans, on profite de la trêve internationale pour prendre ce temps-là. Depuis 5 ans, donc depuis l'arrivée de Pablo Longoria en juillet 2020, d'abord en tant que directeur général délégué de l'OM, avant de devenir président quelques mois plus tard. On nous avait vendu cet été une nouvelle stabilité. C'est pas le cas. Cet été, c'est 12 départs, 12 arrivées. Les chiffres que ont publié la Provence, donc de la Provence hier, sont assez édifiants. Depuis son arrivée en 2020, 172 mouvements à l'OM, arrivée et départ. David, toi, tu as bossé sur l'activité de Longoria en tant que président et recruteur
du numéro 1
de l'Olympique de Marseille.
Ah non, mais là, pour le coup, je me suis vraiment préparé parce qu'en fait, je voulais être précis. Je suis pas d'accord avec certaines méthodologies qui ont été utilisées. Donc,
Il a bossé. D'abord, un mot sur cette fameuse stabilité que beaucoup ici, y compris à Marseille, réclament enfin, espéraient enfin cet été. Est-ce que vous avez le sentiment que l'OM, qui finalement c'est dans son ADN, encore plus sous Longoria, ne peut pas, n'a pas d'environnement qui lui permet d'avoir un effectif stable. Walid, tu veux commencer là-dessus?
Non, moi je.
Possible ou impossible?
Je me fais plus d'illusions là-dessus. C'est que je pense que quand tu bosses à l'Olympique de Marseille, quand tu dois prendre en compte le contexte marseillais, c'est beaucoup trop compliqué d'être stable. Coach compris. Alors là, aujourd'hui, tu as une deuxième année sous De Zerbi, mais tu sais très bien que pour De Zerbi, si ça se passe mal dans les prochains résultats, la question va se poser très rapidement sur l'avenir de De Zerbi, parce que
ça,
aujourd'hui,
c'est pour les coachs.
Hein, pour les coachs. Oui. Et là, on va amener sur les joueurs. Mais là, je vais parler parce que sur les coachs, je sais plus qui disait ça dans l'émission hier ou avant-hier, mais je crois qu'il y a que Garcia qui a fait deux ans plein.
Rudy Garcia, ouais.
Alors, de Marseille sur les dernières années.
Ouais, c'est un an et demi, c'est
ouais, ça. Sur les dernières années, mais deux ans plein. Donc ça, c'est pour les coachs, mais pour revenir sur les joueurs.
Sinon, avant, faut remonter à Deschamps.
Moi, ce qui me dérange un petit peu sur l'hypocrisie, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure avec Didier Deschamps, sur ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille en ce moment. Il y a un gros débat, c'est sur la stabilité et le nombre de mouvements. Ok, très bien. C'est vrai que les dirigeants nous avaient vendu cette stabilité. Pendant tout l'été, on a parlé de colonne vertébrale qui était restée à l'Olympique de Marseille, avec De Zerbi déjà qui faisait sa deuxième année, Rulli, Balerdi, Højbjerg, Greenwood, Rabiot. Bon, Rabiot est parti pour les raisons qu'on connaît.
Ou qu'on connaît pas d'ailleurs.
Ou qu'on connaît pas, mais il est parti. Ça faisait partie de ta colonne vertébrale et c'est une vraie perte sportive qui n'était pas, j'imagine, voulue à la base. Mais globalement, les joueurs que je viens de citer sont restés. Maintenant, sur l'histoire des 11 mouvements, des 11 arrivées, des 12 départs. Quand on regarde les départs, quand même, ceux qui comptaient véritablement dans mon esprit, parce que je parle pour moi, hein, c'est mon opinion, c'est Rongier et Rabiot. Rongier pour des raisons contractuelles. Avec un an de la fin de son contrat, et Rabiot pour les raisons qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et derrière, tu as Quentin Merlin qui était remplaçant sur la fin de saison, qui est parti à Rennes. Mais sinon, il y a Luis Enrique avec, je pense, tout le monde a expliqué sur ce plateau et tous les observateurs que c'était une vente inespérée de le vendre
bah
25
moi,
millions d'euros.
C'est la meilleure depuis 5 ans.
Exactement.
Et quand je dis c'est presque survendu, tu m'as dit, Nico, n'exagère pas, Luis Enrique.
Il
m'est tombé dessus ce jour-là.
Nico, je sais pas, à chaque fois,
on se parle dans 6 mois.
À chaque fois, tu veux reparler des émissions il y a 3 mois.
Non, mais c'est important.
On peut refaire le débat parce qu'après, on sort d'émission, tu dis, on ralentit l'émission. Donc, si tu veux, on peut.
Avant, s'il te plaît. J'ai fait mon point. Ça a pris 3 secondes.
français. Mais sur Luis Enrique, j'ai juste dit que c'est pas un kidam et que c'est un bon joueur. Et quand je vois le marché des transferts aujourd'hui, oui, c'est très bien vendu, mais il y a pas mal de cas similaires. Bon, bref, passons. Luis Enrique était titulaire, mais tout le monde avait dit que c'était une belle vente et qu'il fallait le faire. Ensuite, sur l'histoire de l'instabilité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a plus d'argent que les concurrents en termes de budget, etc. Mais l'Olympique de Marseille, par rapport à ce qu'ils veulent faire en termes d'effectifs et essayer saison après saison d'upgrader en termes de qualité, est obligé d'avoir cette instabilité. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien, moi c'est mon avis, si on regarde bien, il y a beaucoup d'options d'achat parce que tu es obligé de lisser sur les prochaines années. Mais ces options d'achat, notamment, bah si les performances ne sont pas bonnes, tu peux avoir un mouvement perpétuel qui sert ou non à la performance sportive. Moi, je pense que ça dessert plutôt que ça sert. Mais est-ce que ce n'est pas finalement, comment dire, une obligation de projet? Parce que entre la pression, entre l'Olympique de Marseille qui saison après saison doit essayer de passer un cap. Je prends des exemples. Aujourd'hui, défensivement, tout l'an dernier, on avait expliqué, on avait dit, c'est un chantier, il faut se renforcer numériquement et qualitativement. Bon, aujourd'hui, bah, tu as eu combien de mouvements derrière ? Tu as eu Emerson Palmieri, tu as eu Medina, tu as eu Aguerd, tu as eu Pavard. C'est dans le bon sens.
Egan Riley aussi.
Egan Riley, c'est dans le bon sens. C'est aujourd'hui, ces mouvements, l'OM en a besoin. Donc aujourd'hui, on dit mouvement, pas mouvement. Qu'est-ce qu'on fait sur les cinq mouvements qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille ? Il fallait rester avec Kondogbia, avec Cornelius, avec moi. Ça me dérange pas d'avoir des mouvements si c'est pour véritablement avoir une plus-value dans ton effectif. Et les joueurs qui viennent d'arriver, est-ce que si l'an prochain, un Naïef Aguerd qui a 29 ans a des possibilités de partir, Balerdi qui a une offre à 40 millions d'euros ou 30 millions d'euros, qui va partir avec la vitrine de la Ligue des Champions, eh ben il partira et ça fera encore de l'instabilité et du mouvement. Un Pavard, option d'achat. Bon, je trouve que le deal, il est plutôt bon de Benjamin Pavard. Ah, option d'achat non obligatoire. Si dans un an, le mec, il a rendu service à l'Olympique de Marseille et qui part derrière vers d'autres horizons, mais il aura servi à l'Olympique de Marseille à aller chercher ce podium. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier que dans ces mouvements-là...
C'est un peu court-termiste quand même, tout ça.
Non, comment ?
C'est pas un peu court-termiste, justement.
Mais je pense...
D'avoir un mec sur deux, à minima deux, voire trois saisons.
Je pense qu'il va falloir ne plus être naïf et que si le discours des dirigeants et celui-là, il faudra plus y croire, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, tu dois faire un effectif à l'instant T pour faire des résultats. Et la priorité, c'est de continuer à faire la Ligue des Champions pour essayer d'assainir les finances et de pouvoir faire des cycles. Mais à l'instant T, tu ne peux pas, c'est-à-dire que demain, tu ne peux pas créer de la valeur. C'est trop difficile à l'Olympique de Marseille. Ismaël Koné, si au bout d'un an, t'as acheté 15 millions d'euros, Ismaël Koné, il fait pas l'affaire, bah tu t'es trompé, malheureusement, tu dois aller chercher quelqu'un d'autre et un joueur peut-être meilleur. Comme avec Eli Wahi, comme avec plein d'autres exemples. Et moi, je pense que je ne me ferai plus duper sur l'histoire de la stabilité parce que l'Olympique de Marseille ne peut pas le faire.
Bon, David, t'as bossé aujourd'hui sur le bilan 5 ans mercato de Longoria. Déjà, tu le diras juste après la pause, d'accord ?
Okay.
On fait une pause et dans un instant, les chiffres. Il y a du boulot, il y en a un qui a préparé l'émission ici, c'est David Glezman. Dans un instant, Joris sera avec nous également au 32-16 qui voudrait parler de ce mercato marseillais. Tiens, un petit point, un score. L'Espagne mène 2-0 désormais face à la Bulgarie. Sinon, on a également les Pays-Bas qui mène 1-0 ce soir face à la Pologne. Et puis, sachez que la Belgique mène toujours 1-0 finalement face au Liechtenstein. La suite de Génération Inter, dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille avec vous au 32-16, supporters de l'OM. On parle de la stabilité ou instabilité, est-ce une fatalité à Marseille ? Reste avec nous, RMC, 21h21.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, Elton Mokolo et David Glusman. L'after sera là, bien sûr, à partir de 22h ce soir avec Jimmy Brown, Daniel Riolo et Kevin Diaz autour de Gilbert Bribois.
Alors, juste pour terminer, Nico.
Je précise. Ouais. On parlait de Marseille, évidemment, de l'instabilité chronique à Marseille. Pour toi, c'est une fatalité. Il faut l'accepter maintenant.
Exactement.
Et dire à Monsieur Longoria d'arrêter de faire des promesses.
D'arrêter de nous vendre ça. Et juste pour terminer, avant de laisser le brillant David Glusman là-dessus, c'est que pour d'autres clubs,
D'autres clubs l'assument. Notamment Lille a fait beaucoup de mouvements cet été par rapport à un contexte financier très compliqué. Il faut aussi peut-être expliquer à l'Olympique de Marseille qu'ils ne peuvent pas tout faire et que pour essayer d'upgrader une équipe année après année par rapport aux ambitions de l'Olympique de Marseille, eh ben, il doit avoir des sorties avec des joueurs que tu dois sortir pour récupérer de l'oseille et des rentrées. Et que sur la vision à long terme, pour essayer de développer des jeunes joueurs, ben, Marseille n'est pas l'endroit. Adéquat. Moi, je pense qu'il faut se faire une raison là-dessus.
Mais ce que tu dis là est valable. Est valable pour quasiment tous les clubs.
Oui, tous les clubs.
PSG.
Mais moi, je trouve
dès que tu n'as pas une stabilité financière,
le contexte,
tu peux pas, ne
très
pas spéculer.
Franchement, le contexte. Je comprends que le contexte il est très spécial à Marseille. N'importe qui est allé à l'Orange Vélodrome. N'importe qui s'est promené boulevard Michelet avant une rencontre. Tu te dis que c'est une ambiance complètement électrique qui peut inhiber. Oui, le contexte est spécial. Mais moi. Cette semaine, il y a deux informations, ou plutôt deux débats qui m'ont marqué. Le premier débat, c'est la critique, notamment d'Eric chez nous, sur le turnover de l'OM. Et je vais pas paraphraser, et je vais accélérer, je vais pas paraphraser Walid. Moi, je trouve que l'équipe, elle est plus forte que l'année dernière. Donc moi, ce turnover, ce nombre de transferts, tant qu'il augmente la qualité de l'équipe, j'ai aucun problème avec ça. Et il y a une autre information qui est sortie, qui a été d'ailleurs savamment relayée par des comptes de supporters sur les réseaux, qui, moi, m'a interpellé. C'est le record de valorisation de l'effet de l'Olympique de Marseille. Alors là, ce record de valorisation, l'effectif de l'Olympique de Marseille atteindrait 402 millions d'euros. Donc c'est plus 40% par rapport à la valeur de l'effectif au moment où Pablo Longoria est arrivé aux affaires. Moi, je me suis dit, mais attends, enfin, moi, j'ai toujours eu, et j'ai fait plusieurs émissions avec Alton et Wally, j'ai toujours parlé de ce plafond Michi, pardon, et je me suis toujours dit, mais attendez, là, on est en train de relayer l'information, c'est basé sur Transfermarkt, ce qui vaut ce qui vaut, ce qui valorise. Par exemple O'Reilly qui n'est pas encore contracté avec l'Olympique de Marseille mais qui valorise Greenwood à 40 millions, donc la méthode est discutable mais c'est la seule base de comparaison qu'on ait. Et je me suis dit mais attends, en fait moi si je suis actionnaire de l'Olympique de Marseille, je suis Franck McCourt, je lis cette information, je me dis mais là mon effectif atteint un record de valorisation et moi j'ai dépensé 700 millions de dollars, il le répète, à un envie, dès qu'il y a une offre potentiellement rivale, en disant « mais moi j'ai dépensé 700 millions de dollars, je suis attaché au club », j'ai dépensé 700 millions de dollars. Sur les trois derniers exercices comptables donc connus, depuis 2023-2024, l'OM perd 80 millions d'euros. J'ai une balance de transfert négative sous Pablo Longoria, de plus 170 millions d'euros. Et de l'autre côté, j'ai…
Tu parles des 5 ans là ?
Sur 5 ans, il y a moins 78 millions de balance de transfert. Et donc, de l'autre côté, moi, on me demande toujours plus en fin d'année. Et on n'a toujours pas battu le record de transfert que de Michy Batshuayi à Chelsea, qui est de 39 millions, et qui date, il est quand même là depuis 9 ans, McCourt, et qui date de l'été avant mon arrivée. Je me dis, il y a un problème. C'est-à-dire que le trading haute fréquence, moi, je le comprends. Mais je le comprends quand il crée de la valeur. C'est-à-dire que là, t'as énormément, et je vais vous le démontrer en chiffres, t'as énormément d'arrivées de départ pour au final gagner très peu, remplir ses objectifs sportivement par rapport à la masse salariale, par rapport à la dépense, sans surperformer, mais c'est du trading haute fréquence pour, c'est souvent du rattrapage d'erreurs, du limitage de casse.
Et donc. Ça, c'est vrai, ça.
Et ouais. Donc, moi, j'ai choisi une autre méthodologie parce que je trouvais, j'ai pas envie de critiquer nos collègues journalistes, mais je trouvais que c'était pas très honnête de comptabiliser tous les mouvements.
Lesquels?
Moi, j'ai
les confirmations de prêt, quoi.
Moi, j'ai comptabilisé dans ma méthodologie. J'ai calculé toutes les plus-values sur tous les joueurs qui ont été recrutés sous Pablo Longoria et vendus sous Pablo Longoria. Donc, en fait, tous les mouvements sont attribuables à Pablo Longoria et à ses équipes.
Non, mais tu voulais répondre à quel chiffre et à quel?
Non, il y a eu des chiffres de la Provence que j'ai pas du tout envie.
Mais contre quelle fois Guendouzi,
de remettre en cause leur professionnalisme.
Le vrai chiffre, c'est 145.
Hein, mais d'achat. Il y a 36 joueurs qui ont été achetés et revendus sous la présidence de Pablo Longoria.
36.
Qui ont été achetés et revendus. Il y a des joueurs qui ont été prêtés, qui ont été renvoyés en prêt. Il y a des joueurs qui ont été achetés, qui n'ont pas encore été revendus. Il y a des joueurs qui ont été achetés et prêtés. Mais il y a 36 joueurs qui ont été achetés et vendus. Les joueurs qui sont arrivés libres et qui sont repartis libres ou revendus, je les ai inclus. Et même dans un objectif de sincérité, j'ai comptabilisé les joueurs du centre de formation qui a été vendu par Pablo Longoria. Par exemple, Perrin. Par exemple, Lopez. Parce que je me suis dit qu'il avait ses... sous son mandat que ces joueurs avaient été valorisés.
Alors, des chiffres.
Et ça nous donne quoi? En fait, c'est un trading haute fréquence à somme
quasi nul. C'est d'une correction au détriment de la création de valeur. Sur 36 joueurs, il y a 18 joueurs qui ont passé une saison ou moins au club. Et donc ça fait 50% des joueurs. Il y a 9 joueurs qui ont passé 2 saisons ou plus et 9 joueurs qui ont passé entre une saison et deux saisons au club. Et à somme nulle, pourquoi? C'est-à-dire que le total des plus-values sur tous ces joueurs, c'est 15 millions d'euros. Et donc l'OM a gagné 15 millions d'euros sur tous les joueurs qui sont arrivés partis sous Pablo Longoria. Et la plus-value moyenne, c'est 400 000 euros. Il y a eu 17 joueurs sur lesquels le club a fait une plus-value. La plus-value moyenne, elle est de 4 millions d'euros. Il n'y a eu que 4 plus-values à plus de 5 millions d'euros. Donc des vrais bons coups de mercato, il n'y en a eu que 4. Et idem les moins-values, il n'y a eu que 4 moins-values supérieures à 5 millions d'euros. Et au final, il n'y a pas vraiment eu d'excellentes ventes. La plus grosse plus-value, c'est Enrique, 15 millions d'euros. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une super vente. Et la plus grosse moins-value, c'est Vitinha. Donc, qui n'a pas été l'accident sportif. C'est une moins-value de 13 millions.
13 millions,
au final. Donc, en fait, le souci, c'est pas forcément d'avoir perdu de l'argent, c'est de ne pas en avoir gagné. Et de ne pas en avoir gagné, pourquoi? Et de ne pas en avoir gagné pour avoir minimisé l'apport de l'actionnaire, parce que, au final, l'OM, en cumulé, perd de l'argent tous les ans. Et c'est l'actionnaire, justement, à chaque fois qu'il doit remettre au pot. Et cet actionnaire, c'est une personne physique. Donc, c'est une personne physique, donc t'es limité aussi par ses capacités.
Mais tu prends tout le mandat de Longoria et pas le nouveau cycle avec De Zerbi. Parce qu'en fait, sur les mouvements, ça aussi, il faut aussi se placer là-dessus. C'est est-ce qu'on parle du nouveau cycle ou de ce qui s'est passé aussi avant?
Par rapport au
mouvement, est-ce que tu as comparé par rapport aux autres clubs de
Ligue 1?
Est-ce qu'en termes de mouvement, par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à d'autres clubs, par exemple, est-ce qu'ils font beaucoup plus de mouvements?
C'est pas sur le nombre de mouvements, c'est sur justement ce plafond Michy qui, moi, m'ennuie. Quand t'investis autant, c'est anormal que ça fasse quasiment 10 ans que ta plus grosse vente, ce soit 39 millions d'euros. Dans le même temps, cette vente de Michy, c'est la 36e vente la plus importante de l'histoire de la Ligue 1. Dans le même temps, Monaco a vendu 11 joueurs plus chers. Le PSG a vendu 5 joueurs plus chers. Lille 6, Lyon 7, Bordeaux a vendu Malcolm.
Donc, il se trompe beaucoup trop?
Il corrige trop vite, en fait. Il se complaisent dans une urgence financière qui font qu'il corrige trop vite.
Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est un gros souci sur le manque de stabilité. Mais la question du soir, c'est est-ce qu'à l'Olympique de Marseille, tu peux laisser le temps aux joueurs?
Parce que
quand tu regardes ce qu'a voulu faire Mehdi Benatia l'année dernière, Lilian Brassier, échec. Eli Wahi, échec.
Tous les
Ismaël Koné, échec. Jonathan Rowe, échec. Je parle de sportivement. Maintenant, ils sont retombés sur leurs pattes. Ismaël Koné va être vendu entre 10 et 14 millions à Sassuolo, son d'achat. Eli Wahi, ils ont limité la casse. Ils ont même plus que limité la casse. Ils l'ont revendu 26 ou 27. Bref, je ne vais pas toutes les énoncer. Mais est-ce que, quand tu prends ces quatre joueurs-là, jeunes, 22, 23 ans, est-ce que tu peux leur laisser le temps de s'acclimater à l'Olympique de Marseille? Est-ce que Jonathan Rowe, à l'Olympique de Marseille, tu peux lui donner 3 ans par rapport à l'exigence et à la pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille?
Il y a une différence entre lui donner 3 ans et lui donner 1 an, ou lui donner 6 mois,
Si demain tu veux, je te prends le cas de Jonathan Rowe, tout le monde a dit...
Après, c'est un cas particulier pour le coup, parce qu'il parle dans des circonstances exceptionnelles.
Il allait partir quoi qu'il arrive. Jonathan Rowe fait une très bonne prépa. Jonathan Rowe fait un très bel euro avec les Anglais, espoir. Il a une valeur marchande. Il a été acheté 15.
Il a vendu 19.
Exactement. Sauf que il y a un souci de se renforcer sur ce poste-là. Et surtout de se renforcer défensivement. Parce que pour acheter des gros joueurs, il faut aussi sortir. Si tu regardes, j'aimerais bien, si t'as les chiffres, David, je parle sous ton contrôle, la balance entre ce que tu as sorti sur ce mercato et ce que tu as fait rentrer. Parce qu'il faut que l'Olympique de Marseille, sans droit TV notamment,
Mais les droits TV, en fait, c'est pas énorme dans le budget. Il faut qu'ils aient une cohérence.
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une cohérence. Ils peuvent pas tout faire, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui. Ils peuvent peut-être faire beaucoup plus que d'autres clubs de Ligue 1, mais ils peuvent pas tout faire non plus. Jonathan Rowe, est-ce qu'aujourd'hui, si tu as besoin de le sortir pour essayer d'aller chercher d'autres joueurs derrière, il voulait Ordonez à 30, 35 notamment, Aguerre, Pavard, etc., Medina avec les 22 millions d'euros, est-ce que tu te dis pas, bon, aujourd'hui, je vais faire Pachao,
pour essayer de monter en puissance avec le départ de Luis Enrique et Ahmed Traoré, et sortir Luis Enrique et Jonathan Rowe, 45 millions d'euros à eux deux, pour essayer de renforcer.
David, ça veut dire qu'au départ, il y a peut-être une erreur de casting sur Jonathan Rowe.
Ah, il se trompe.
Ou alors, à l'arrivée, il y a aussi une erreur de départ de Jonathan Rowe. Bon, on met Rabiot mis
mais
à part.
Mais je te l'ai dit, moi, il y a des erreurs. Il y a des erreurs.
Et c'est là que David peut-être fait l'éloge de la patience, peut-être qu'on non, peut estimer pas, qu'un jeune joueur comme lui, dont De Zerbi a vanté les mérites également, il en parlait déjà dans le documentaire sur YouTube, on va compter sur lui, c'est un joueur à fort potentiel, il est déjà
mais
plus là.
Mais pour moi, il y a des
c'est
erreurs.
Là, l'erreur,
mais,
peut-être.
Mais l'erreur de stratégie, notamment sur celle de Mehdi Benatia, c'est de penser que des jeunes joueurs aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, peuvent avoir le temps, dans ce contexte-là, de s'épanouir. Quand au bout de 6 mois.
Donc il y a une erreur au départ.
Mais oui, mais d'accord, mais surtout, il y a une question.
Il y a beaucoup d'erreurs au départ.
Non, mais il y a une question qui m'intéresse.
Vitinha, je viens de
l'expliquer 10 fois qu'il y a des erreurs. Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que l'Olympique de Marseille, dans le contexte marseillais, est capable de donner de la stabilité à un effectif?
Ça, tu l'as
mais déjà là, on parle même pas de stabilité. On parle de 50% des joueurs achetés qui sont partis au bout d'un an.
Et ça va continuer.
Mais
tu verras que ça va continuer.
Mais en fait,
le débat il est passionnant parce qu'en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, je vais le dire direct, la stabilité qu'on recherche dans un club de très haut niveau, ça l'a porté d'une portion. C'est-à-dire, c'est l'élite. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle où le football, où notamment les joueurs, il y a tellement de flux, c'est très précaire. Mais pareil, sous ton contrôle, David, Arsenal, quand Arteta arrive et qu'il y a Edu, ils ont été dans cette logique-là pour lancer le projet.
C'est-à-dire, ils ont même payé des joueurs pour
partir. Ils ont même payé des joueurs. Parce que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, ils sont dans une idée où ils lancent un projet global. Et quand tu lances un projet global et qu'en même temps, t'as une crise de croissance qui est nécessaire pour faire évoluer le projet, et bien automatiquement, il y a du flux. Maintenant, ce qui va m'intéresser du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que la marge de progression, c'est de tendre vers cette stabilité. Par exemple, pour moi, c'est too much qu'en hiver, après six mois après, il y a des joueurs qui partent. Pour moi, ça doit être ça l'objectif du côté de l'Olympique de Marseille, limiter ce flux au cours du mercato hivernal. Mais maintenant...
Mais pourquoi, tu verras que ce ne sera pas le cas.
Mais pourquoi l'Olympique de Marseille a recruté Roberto De Zerbi? Et pour moi, c'est très passionnant, c'est un thème qui est fondamental. Évidemment que Roberto De Zerbi, on le connaît sur sa capacité à normalement bien faire jouer ses équipes,
les faire progresser.
Mais pourquoi, c'est quoi la finalité? C'est de reproduire ce qu'il a fait à Brighton où Caicedo, Cucurella,
McAllister,
c'est des valeurs marchandes qui ont explosé.
Mais attendez, les gars, il faut que Joris, connaît que Joris qui est là depuis.
Mais c'est un débat très intéressant. Hein,
mais oui, mais Joris nous rejoint.
Bien sûr, Joris.
Salut Joris.
Participer.
Bonsoir la team.
Bienvenue.
Il faut dire la team.
Alors Joris, écoutez le débat justement que tout le monde trouve passionnant autour de la table.
Oui.
Quel est ton regard là-dessus? D'abord un mot sur le principe, la notion de stabilité ou instabilité. Est-ce qu'il y a une fatalité à Marseille? Marseille sera-t-il toujours instable? Walid pense que oui.
Alors sur l'histoire de la stabilité, si j'ai un peu de temps pour développer,
vas-y.
Important et c'est très passionnant. Sur ce qu'on a dit sur la saison dernière, il fallait garder De Zerbi et les cadres. Dans les cadres, le seul qui est parti, malheureusement, on en a assez parlé pendant 3 semaines, c'est Rabiot. Rongier en fin de cycle. Et sinon, après, sur l'ensemble du 11, on sort Merlin et Luis Enrique, qui, s'ils étaient là ou non, c'était pas bien grave, je trouve.
On a Luis gardé... Enrique, je trouve dur, mais Merlin, oui.
Oui, non, mais Luis Enrique, on est arrivé un peu au bout, il y avait de l'argent à prendre, donc ça pouvait se comprendre, ça pouvait partir. Donc du coup, on a gardé quand même les autres joueurs du 11, donc quasiment entre 6 et 7 joueurs, plus l'entraîneur. Le recrutement qui est fait à côté, alors, des problèmes défensifs, tout le monde l'avait dit, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, j'ai vu Walid en début de saison, enfin en début de mercato du moins, on parlait déjà de Haguerd avant qu'on signe Medina, tout le monde disait que c'est une super bonne idée, il fallait acheter entre au moins 5 ou 6 joueurs pour faire la Ligue des Champions. On a sorti des remplaçants, on a sorti des cadres et on les a remplacés par les joueurs que vous avez parlé depuis tout à l'heure qu'on a recrutés. Ça fait certes 14 nouvelles arrivées ou 12 nouvelles arrivées, pardon, pour 14 départs. Ça peut sembler être une instabilité sur le fait du mouvement qui est important, mais ce sont des mouvements qui ont amélioré l'effectif et qui ont, dans le groupe et dans le projet de Zerbi, une certaine continuité. Puisqu'il a gardé ses cadres, il a gardé son effectif et on l'a amélioré. Ensuite, moi je suis d'accord avec tout le monde, hein. J'entends parler, l'air Longoria, il est malade de transfert, il peut pas se retenir. Il y a un média que je suis, qui suit l'OM, qui a l'air sérieux, qui s'appelle La Minute OM, et ils ont fait un petit comparatif avec les autres clubs, parce qu'il faut regarder ce que font les autres aussi sur la période Longoria.
Ah bah je voulais ces chiffres-là, moi.
Ben, par exemple, le Paris Saint-Germain, c'est 230 mouvements sur les 5 ans. OK. Lyon, c'est 239. Lille, 164. Et l'OM, 172. Mais bon, malheureusement, je ne vois pas passer des grands papiers dans l'équipe ou des grands sommaires en long, en large, en travers, en nous expliquant que le travail du Paris Saint-Germain, ben, c'est pas terrible, il renouvelle beaucoup. Que Lille, ben non, c'est pas terrible non plus. Que Lyon, ben oui.
Mais regarde la valeur créée par Lille. Attends, vas-y, regarde la valeur créée par Lille. Parce qu'en fait, le problème de la stabilité, c'est que la question de la stabilité, c'est que le problème, il a été mal posé. C'est que là, en fait, ton instabilité, c'est pas forcément un choix. C'est une obligation. Pourquoi? C'est une obligation parce que tu n'arrives pas à l'Olympique de Marseille à valoriser tes talents. Moi, j'avais créé une catégorie qui était les recrues trading. C'était des recrues qui
que tu achetais pour faire une plus-value.
Exactement, et que tu revendais avant 25 ans. Vous savez combien il y a de recrues trading sur l'ère Longoria qui ont été revendues plus de 50% du prix d'achat? Deux, Bamba Dieng et Luis Enrique. Tout le reste ont été revendus soit à perte, soit avec une plus-value, soit avec une plus-value minime. Et une plus-value de 50%, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est juste faire 5 millions sur une recrue à 10 millions, donc c'est pas énorme.
Joris, je laisse finir ton raisonnement. Joris.
Je suis d'accord avec ça aussi. Mais après, voilà. Donc ça, c'est, je parle des mouvements en général pour les autres clubs. Après, il se rajoute quelque chose à l'Olympique de Marseille. Moi, je veux bien entendre, hein, l'histoire de, on n'a pas gardé Wally, on n'a pas gardé Bamba Dieng, on n'a pas gardé qui vous voulez. Mais, il faut voir aussi comment jouent ces joueurs. Moi, Jonathan Rowe, peut-être très bon joueur, pas de problème. Mais si de la saison dernière, De Zerbi ne le fait pas jouer, c'est que peut-être il y a quelque chose. Si ces joueurs n'arrivent pas à s'acclimater parce que la pression est compliquée, tout est dur, l'attente est beaucoup plus forte et que le club ne veut pas se sentir pénalisé parce que peut-être ils n'arriveront pas à les revendre, eh ben, vaut mieux les vendre. Quitte, même si on ne fait pas de plus-value, et je l'entends aussi, hein. Mais si ça convient à tout le monde. Ils ont vu l'actionnaire dans l'été. Tous les trois, ils sont allés, ils l'ont rencontré, ils lui ont dit ce qu'ils comptaient faire. L'actionnaire a dit, c'est bon. Si à ma courte, ça lui convient de manger 20, 30 millions d'euros par an, qui voit que l'équipe avance, là, l'équipe, enfin, c'est son argent. S'il trouve que ça ne lui convient pas, il va dire, non, on arrête là, on n'achète pas Pavard, on ne prend pas Aguerd, vous débrouillez avec Cornelius et Kondogbia dans l'axe, ça ira bien comme ça. Mais qui peut dire aujourd'hui, alors après, on verra comment on va faire jouer De Zerbi, c'est pas la question. Mais qui peut dire aujourd'hui là, qu'on ait fait un mauvais mercato et que ce semblant d'instabilité qui peut paraître une instabilité, pardon,
oui, Joris.
Est négative et Joris, néfaste pour le club.
C'était pas tant le sujet que vous voulez mettre en avant, David. Hein. Lui, il voulait insister sur finalement la stratégie de plus-value manquée par Longoria en réalité. Quoi.
Alors que c'est un scout. À la base, c'est son ADN.
Sa stratégie de transfert à haute fréquence, comme tu l'as dit
exactement,
tout à l'heure,
c'est du trading à haute fréquence.
C'est pas pertinent. Il est plutôt neutre même.
Après, non, il est mauvais, mais il est neutre.
Après, il est pas
neutre.
Seul responsable Pablo Longoria là-dessus. Il y a le coach, il y a ce qui se passe sur le terrain, la mise en valeur.
C'est très complexe. Joris, merci d'être venu. On t'a laissé la parole. Il y a Madou qui va arriver aussi au 32-16, ouais. On va finir là-dessus parce qu'on a beaucoup d'appels.
Exactement.
Sur ce sujet qu'on fait ce soir dans Génération After avec David Elton et Walid. Walid, je sais que tu veux encore la parole. Reste avec nous. La suite dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec David Guzman, Elton Mokolo et Oulé Dachachour, on parle stabilité, instabilité à Marseille, est-ce propre à l'OM? Pourquoi autant de mouvements, même si Joris a fait une intervention brillante en rappelant que d'autres clubs français ont fait énormément sur les mercato depuis 5 ans. Certes, mais c'était pas le propos de David, encore une fois,
c'est
je le rappelle.
Ce que disait David,
en revanche, c'est qu'il juge le bilan financier de Pablo Longoria.
Moi, c'est la valorisation.
Tout simplement.
Moi, je comprends le trading de votre fréquence.
Très peu de gains ou un bilan neutre, même négatif, 70 millions d'euros.
Mais la porte couvre, David, là-dessus, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, finalement, il limite la casse sur les profils qu'ils ont achetés, alors qu'ils devaient faire une plus-value, et ça, c'est un problème pour l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, partant de ton postulat qui est factuel, qu'on peut pas aujourd'hui contrecarrer, c'est pourquoi est-ce que c'est Longoria et Benatia qui se trompent, ou est-ce que c'est le contexte marseillais qui, comment dire,
ils peuvent recruter des joueurs en fonction du contexte marseillais aussi. Walid, tu m'écoutes pas. Ils peuvent aussi faire des choix psychologiques.
Ouais.
De joueurs qui vont répondre favorablement au contexte
Benatia
marseillais.
Il n'avait pas le temps.
C'est possible.
Mais c'est des erreurs de Benatia.
Vitinha, c'est la caricature.
Donc c'est des erreurs de Benatia et de Longoria. Mais quand on cite deux, trois exemples de mecs qui,
quand ils sont arrivés à Marseille, ont été en grande difficulté et qui finalement, en dehors de Marseille, ont été plutôt bons,
erreur.
C'est une erreur de ramener Illiman Ndiaye quand tu vois aujourd'hui sa valeur marchande à Everton.
C'est une erreur de pas
faire
le contexte pour le valoriser, mais
quand Illiman Ndiaye arrive à l'Olympique de Marseille, on est tous emballés. Il a coûté quoi, 18 millions d'euros?
Il était même emballé.
Non mais il arrive là-bas.
Mais nous on est emballés sans connaître le joueur aussi.
Non, mais est-ce que je peux terminer une phrase, Nico? Illiman Ndiaye, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, il est pris par le contexte marseillais, il fait du surasisme, mais mentalement, etc. Donc encore une fois, on va pas tous citer les exemples. Ismaïla Sarr aujourd'hui, quand il est à l'Olympique de Marseille, hormis son match contre Villarreal où il a été très très bon en Europa League, ça a été une catastrophe. Il va à Crystal Palace, à chaque fois que j'allume la télé à Crystal Palace, le mec il est extraordinaire. Après, avec Mateta.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Moi je vais donner deux exemples européens. Ok, donc Naples. En fait, j'ai rien le droit de dire, Nico.
Naples, mais c'est pas ça, mais tu l'as déjà dit.
Non, j'ai pas cité les exemples.
Le critère du contexte.
J'ai dit juste qu'aujourd'hui, est-ce que tu dois laisser du temps à Ismaïla Sarr, à Illiman Ndiaye, à tous ces mecs-là?
Est-ce qu'il ne faut pas les recruter, tout simplement?
Tu recrutes quel type de joueur à l'OM?
Des erreurs, évidemment, j'ai pas le
droit. Mais il y a que des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, je suis en train de te le dire.
Mais
j'essaye de dire à l'Olympique de Marseille, comment tu fais? Est-ce que tu as le luxe de les laisser 2 ans, 3 ans?
On est d'accord.
Est-ce que c'est possible?
David.
Walid. Il y a deux clubs à qui on compare régulièrement. Alors ils se sont même comparés, l'Olympique de Marseille, le premier c'est Naples, qui a réussi dans un contexte bouillonnant à valoriser des talents, notamment Guevara, il y a eu Jorginho, il y a eu Alan, il y a eu Osimhen, enfin Osimhen ils sont plus ou moins. En plus il y avait le transfert Gérard Lopez, il y avait eu Cavani, il y a eu Koulibaly, donc il y a eu énormément de joueurs valorisés. Et Dortmund, on peut pas dire minimiser la pression populaire également à Dortmund avec le mur jaune qui tous les ans arrive à faire un transfert x4, x5, x6 avec Bellingham, avec Haaland, et encore il y avait une clause, il y avait un
prix limité avec Bellingham,
avec Gittens, avec Sancho. Donc en fait, si tu veux, c'est juste qu'ils avaient un tout petit peu plus, parce que c'est vrai que à Naples il y a quand même pas mal de turnover, mais ils se sont donné aussi quelque part en fait le temps. Donc même dans un contexte passionné, c'est possible
Cette stabilité.
Amadou,
je pense que c'est un problème pour l'Olympique de Marseille.
Bonsoir Amadou.
Bonsoir les gars.
Vous allez bien, Amadou?
Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout ça, ce qu'on dit là, il y a beaucoup de choses, évidemment. Le turnover, l'instabilité marseillaise. Est-ce que c'est une fatalité pour toi?
Je vais commencer déjà par féliciter David pour son extraordinaire démonstration. Il y a 5 ans, Longoria, on pouvait comprendre, en tant que supporter de l'OM, la créativité qu'il a dû mettre en place pour pouvoir faire un effectif qui était, on va dire, qui pouvait tenir la route. On savait qu'à l'époque, les moyens étaient limités, etc. Donc, on se dit, bon, il fait beaucoup de mouvements, il fait beaucoup de prêts, etc. C'est normal, on part de tellement loin qu'il faut bien trouver des moyens pour recruter des joueurs. Ça, c'était il y a 5 ans. Depuis, j'ai l'impression que ce club, même malgré les discours qui veulent nous rassurer, qu'il faille la stabilité, etc., ça fait 2 ans qu'on l'entend, j'ai l'impression que la direction de ce club en veut à notre cuir chevelu, à notre chevelure, tellement ils veulent qu'on se les arrache les cheveux chaque été. Chaque été, on y a droit. Donc on a droit à des perpétuels mouvements. Pour une fois, la saison dernière, on avait une équipe dont on se dit, allez, là, c'est bon, on a quelque chose, on a une base. Il suffit peut-être de l'alimenter de 4, allez, 3, 4 joueurs.
Oui, mais là, cette saison-là, tu as double compétition, évidemment, Ligue des Champions, Ligue 1, c'est compliqué.
Amadou, rassure-moi, quand tu as vu l'effectif de l'an dernier, tu ne disais pas qu'il n'y avait que 4 joueurs à faire, quand même?
Peut-être pas, mais...
Bon, pour moi, il y en a un ou deux en trop, peut-être, un Timothy Weah, il y a des joueurs, pour moi, il y aura encore des erreurs cette saison. Et ça, c'est problématique, et je rejoins Nico, il faut plus faire d'erreurs, en tout cas, il faut minimiser les erreurs à l'Olympique de Marseille. Mais bon, quand t'as 2 compétitions et quand t'as vu tous les problèmes structurels dans l'effectif de l'Olympique de Marseille l'an dernier,
en fait, c'est un problème
tu dois renforcer
le problème. Amadou, parce que... Fini, Amadou, vas-y.
Ouais, je termine, parce que autant sur les premières saisons du mandat Longoria, on se dit, bon, peut-être qu'il fait du trading parce que lui s'en défendait. Bah, ça s'est vérifié et David l'a bien démontré. Il ne gagne pas d'argent, donc j'ai pas l'impression, à moins qu'il soit un piètre gestionnaire, que le gars était là à faire des transferts pour gagner de l'argent. Donc si c'est pas ça la raison, donc l'autre raison c'est d'améliorer l'équipe d'année après année. Bon, on se dit pas qu'elle s'améliore pas l'équipe. Elle s'améliore, on va pas se cacher, elle s'améliore. Mais malgré ça, on ne gagne pas de titre. On ne se stabilise pas au sommet de la Ligue 1. On ne s'est pas stabilisé au sommet de la Ligue 1. On a fait combien de podiums depuis? On n'en a pas fait des temps que ça, de la Champions League.
On a fait des podiums.
C'est le troisième, là, podium, hein, quand même, je crois.
Ouais, une saison accident, 8e, sinon c'est podium.
T'as Tudor, Sampaoli, De Zerbi, quand même, sur les 4 dernières années, quand même, en podium, non?
Je suis d'accord.
Oui, mais voilà. Mais là, il y a le problème, c'est que, à chaque été, on s'invente un mélodrame.
C'est un autre problème.
Mais voilà. ça participe à ça.
Tout à fait. Je pense que depuis deux semaines,
de l'effectif, il l'a collé quand même. Sur le coach.
Amadou, il a dit quelque chose qui pour moi est très important. Parce que déjà, c'est une question de timing. À l'été 2022 et 2024, l'Olympique de Marseille fait 11 arrivées. On n'en parle pas parce qu'il gagne des matchs. Non, on en parle parce qu'il perd des matchs. Et le deuxième point, c'est que Amadou, pour moi, c'est fondamental. L'Olympique de Marseille est un club qui a une crise d'identité parce que t'es tiraillé entre le fait de vouloir faire du trading et de gagner des titres. L'Olympique de Marseille ne sait pas où il en est.
Très bien, j'aime beaucoup cette conclusion-là.
Ouais,
c'est terminé. Merci David d'avoir amené le sujet sur la table. Merci Amadou d'y avoir participé. Dans un instant,
merci à Joris.
Merci à Joris aussi.
Joris, très bon aussi, tu as raison.
Merci à Nico.
Merci à toi, Walid aussi, pour tout ce que tu es. Mais vraiment, tout
merci,
ce que tu es.
Merci pour cette
Tiens, justement, l'Algérie s'est fait égaliser par le Botswana partout.
Ça m'emmerde un peu plus.
Ça t'emmerde un tout petit peu. L'Allemagne est menée 1-0 par la Slovaquie.
Oh là là.
Avec un but de recrue de l'Atlético de Madrid. Et puis, vous aurez tous les résultats, zone Europe, zone Afrique, avec monsieur Gilbert Bribois.
J'ai vu qu'il y avait un gros débat sur légende Mbappé à 22h. Est-ce qu'on n'écoute pas Génération After dans l'After Foot?
MJDM.
La légende que peut devenir Mbappé en Coupe du Monde.
Moi, je serai attentif à Kevin Diaz.
On aura quand même une dédicace ou pas?
Tu veux dire dans l'émission d'espionnage industriel.
Allez, l'after arrive. Merci David Elton, Walid, Gilbert. Allez. Pour la suite, l'after jusqu'à minuit, comme tous les soirs sur RMC.